Bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase, votre émission d'actualité du midi, où on traite des enjeux importants locaux, également provincial. On fait un petit tour au fédéral une fois de temps en temps. Aujourd'hui, on va continuer à parler du tramway. Je vais vous faire entendre, entre autres, l'extrait très émouvant de Carl-Emmanuel Picard, propriétaire du bar Lanty, par rapport aux travaux du tramway. Ah oui, les difficultés que les commerçants vont vivre. On l'avait remarqué sur avec les travaux qui touchaient les commerces sur Grande Allée, que ça prenait de la créativité des commerces, que c'était pas nécessairement la ville qui les aidait. Je pense notamment à l'atelier qui a proposé de faire une terrasse à l'arrière de leur bâtiment. Ça a finalement été accepté par la ville, mais ça n'avait pas été pensé et planifié par la ville au départ. Et là, ce que Carl-Emmanuel nous raconte, c'est que lui, il n'y aura plus de stationnement puis que les bennes déloadent leur matériel, puis la ville le laisse dans le néant. Alors, vous allez entendre ce témoignage-là, c'est très touchant. On va vous le faire jouer après le caucus aujourd'hui avec Emmanuel Latraverse. Également, Respect citoyen a fait une conférence de presse, un peu lunaire sur le tramway. Donc, dans le municipal, on va parler de ça. Puis toujours dans le dossier du tramway, on va avoir René Amilcar. Qui est René Amilcar? C'est la présidente directrice générale de Mobilité Infra Québec. Mobilité Infra Québec, c'est une société d'État créée par Geneviève Guilbeault lorsqu'elle était ministre des Transports, pour justement permettre au Québec de développer davantage de grands projets en transport en commun, parce qu'on s'était rendu compte, et à raison, que quand on donnait ça directement aux sociétés de transport, on avait de la difficulté. La meilleure preuve qu'on a, c'est à Québec. Souvenez-vous, le retrait du projet de tramway de la Ville de Québec fait par François Legault, Jonathan Julien et Geneviève Guilbeault. Mais René Amilcar, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui, en 2021, est devenu la DG du réseau de transport à Ottawa. Et à ce moment-là, le tramway, c'était un vrai bordel. Elle avait 114 recommandations à mettre en place. Elle les a mis une par une. Puis le tramway fonctionne bien présentement à Ottawa. Alors, je veux profiter de son expérience. Je veux vous faire profiter de son expérience en ondes aux alentours de 12h30. Elle va nous parler qu'est-ce qu'on devrait faire pour le tramway, qu'est-ce qu'on devrait ne pas faire. Puis Mathias, ça va nous permettre de surveiller davantage CDPQ Infra puis le Mont Marchand dans tout ça.
De voir aussi si on va être capable de maintenir les coûts au niveau actuel à 7,6 milliards.
Exactement. Donc, ça va être une entrevue très pédagogique. Et dans l'émission également, dans la deuxième heure, Luc Laliberté, que vous appréciez beaucoup, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair, va venir nous parler de tout ce qui touche la politique américaine, la géopolitique. Cessez le feu, Israël, Liban, mais on continue à se bombarder. Cessez le feu, Iran, États-Unis, mais on continue à se bombarder. Cuba, qui présentement, j'ai l'impression que les 11 millions de population est sur le bord de sauver de là, puis tenter de sauver sa peau. Puis ces fameux tarifs, puis ce 51e État. Bref, on va se faire un gros résumé de la semaine en géopolitique américaine, parce qu'avec Donald Trump, ça continue toujours de bouger. Mais Mathias, avant d'aller justement rejoindre Emmanuel Latraverse, qu'est-ce qu'on doit suivre en priorité dans l'actualité?
Le projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux 16 ans et moins devrait être déposé normalement demain par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. C'est ce qui est rapporté par Radio-Canada. Je vous rappelle que tous les partis de l'opposition, sauf un, appuie présentement l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire appuient le gouvernement dans la démarche. Toutefois, une sortie du Parti conservateur du Québec fait bien jaser ce matin, alors que Maïté Blanchette-Vézina a comparé l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans à l'interdiction des pamplemousses, en disant « Va-t-on interdire les pamplemousses? »
Ouais, on écoute cette sortie de Maïté Blanchette-Vézina. On va en parler avec Emmanuel dans quelques instants.
Je vais vous donner un exemple. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui interagissent. Il y a une interaction avec le pamplemousse. Ça peut causer des décès, là. Ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse?
Oh my God! On va faire entendre des extraits de la conférence de presse de Maïté Blanchette-Vézina. Quand on parle de conférence de presse lunaire, ça en était toute une avec Emmanuel Latraverse. Et plus tard dans l'émission, je vais vous faire entendre également des commentaires recueillis sur Boulevard 101. C'est disponible sur blvd.fm. On a parlé avec la mère de Zachary Miron, Véronica Martinez, ce matin en fin d'émission dans Martion le matin.
La stratégie nationale en intelligence artificielle du gouvernement fédéral, du gouvernement Carney, a été révélée ce matin, notamment présentée dans un point de presse par le premier ministre lui-même. Notamment pour assurer une plus grande souveraineté numérique du Canada, on prévoirait la construction d'un super ordinateur public de calibre mondial et le développement de semi-conducteurs au pays. Ce serait 2,3 milliards qui seraient enclenchés dans différents fonds qui existent déjà pour mettre la stratégie en place. Je termine avec Québec, une sortie de Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui ne va pas faire plaisir au fédéral, selon moi. C'est le gouvernement Carney qui demandait hier au CRTC d'abandonner les redevances supplémentaires qu'on voulait mettre en place pour les géants américains de la diffusion comme Netflix, Prime Video et Disney. Tout ça dans le but d'améliorer les négociations entre le Canada et les États-Unis. Ce qu'on a annoncé du côté de Mathieu Lacombe aujourd'hui, c'est que si le CRTC reculerait, comme demandé par Mark Carney sur ces redevances supplémentaires qu'on voudrait instaurer, du côté du Québec, on pourrait prendre le choix de nous-mêmes imposer des redevances aux géants du web comme Netflix, Prime Video et Disney.
Merci beaucoup, Mathias!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Aujourd'hui, on va rejoindre Emmanuel Latraverse qui sera avec nous aujourd'hui et demain. Emmanuel, premièrement, je veux te remercier parce qu'à Boulevard 102, imagine-toi donc, on est passé de 54 000 auditeurs en moyenne l'an passé à 72 000. Donc, c'est un bon 18 000.
Ah, bravo!
On est super heureux puis tu collabores avec nous. Donc, on te remercie d'être avec nous et de collaborer au succès. Merci beaucoup. Hey, Emmanuel... Qu'est-ce qui s'est passé? On est-tu de retour avec la liberté, le libre choix des partis du Parti conservateur du Québec? Qu'est-ce qui se passe avec Maïté Blanchette Vézina? Je te fais écouter un extrait de sa conférence de presse où elle parle de populisme.
Je pense que ce qui est important de rappeler, là, que c'est un dossier qui est très important, c'est la santé de nos enfants. Étant moi-même mère de jeunes enfants, ce débat-là, je le trouve important. Puis c'est pour ça qu'on nous, on s'oppose à une précipitation dans ce dossier-là. On s'oppose au populisme dans le dossier.
Il y a Hugo qui vient de texter Emmanuel. Mon Red Bull, mon choix. Ah ah ah, le PCQ. Ça n'a pas de sens. Il y a des études depuis 2023 qui ont été faites. Il y a eu des médecins qui se sont prononcés. Il y a une acceptabilité à peu près à 100% dans la population. Mais là, il y a une personne qui fait dérailler tout ça, c'est Maïté Blanchette Vézina.
Oui, puis on s'entend que l'exemple du pamplemousse, c'était pas l'exemple Ouf. Plus fort de l'humanité. Là.
Non, hein?
Je pense qu'on va en rire beaucoup. Là. Non, on n'interdit pas les pamplemousses. Il y a une très grande différence. Les enfants qui ont une interaction médicamenteuse avec le pamplemousse, leur parent s'assure qu'ils n'en mangent pas. Le pamplemousse n'a pas le goût sucré, attrayant, super le fun,
non,
qu'ont les boissons énergisantes. Et ça ne se vend pas dans tous les dépanneurs au coin de la rue.
Puis il n'y a pas le marketing non plus, là.
Les adolescents en quête de buzz, j'en ai jamais vu se ruer sur un pamplemousse, qu'il soit rose ou jaune. Alors, tu sais, je veux dire, c'est comment... Le problème, moi, j'en suis que tu peux dire, ben moi, j'ai un malaise avec le fait qu'on va adopter ce projet de loi-là à toute vitesse, puis que ça se peut qu'il y ait des écueils qu'on n'ait pas vus, parce qu'il n'aura pas été bien étudié. Je pense qu'il faut quand même reconnaître ça. Puis, j'ai un malaise avec le fait que le gouvernement s'en sert pour montrer qu'il agit à toute vitesse. Ceci étant dit, le consensus est tellement important dans la communauté scientifique et médicale que des fois, dans la vie, tu sais, la perfection est l'ennemi du bien, là.
Ah, oh, je suis tellement d'accord.
Alors là, il y a un moment où tout le monde est d'accord. Tu sais? Alors, cueillons-le, le fruit, adoptons-la, la loi... Puis c'est tout, là. Puis c'est cette prise de position de Québec, pas de Québec solidaire, du Parti conservateur, avec le parallèle du pamplemousse, là, c'est tellement symptomatique des erreurs de ce parti-là. Éric Duhaime essaie depuis un an de camper la crédibilité de son option politique, le sérieux de son option politique. Quand tu fais ça, là, Surtout que tu es un petit parti, que tu n'as pas les ressources d'un parti qui a 30 députés. Choisis tes batailles.
Tellement. Et
est-ce
ça, c'est...
vraiment l'interdiction des boissons énergisantes aux ados, c'est vraiment une bataille qui fait en sorte que les gens vont dire « Hey, moi, je vais l'appuyer, le Parti conservateur. » C'est sûr que les gens qui votent déjà conservateur, ils sont super contents. OK?
Mm-hmm.
On aurait beau le bon choix. On est d'accord. Mais le problème du Parti conservateur, c'est d'élargir la tente.
En effet.
C'est pas avec une prise de position comme ça que tu réussis à élargir ta tente. Et c'est ça, c'est ce que je conçois comme étant la méga erreur tactique, au-delà de l'erreur de communication avec le pamplemousse. Là,
mais tu as raison, parce que, écoute, par texto, là, ils continuent d'interagir au 418-971-1021. Les gens parlent beaucoup de manque de jugement, puis tu as raison. Et est-ce que c'est la grande problématique de ces partis-là que je vais dire qui émanent d'un courant un petit peu plus marginal? OK, puis je vais te comparer la situation avec Respect citoyen, le parti politique à l'opposition de la Ville de Québec qu'on voit. Ils se trouvent tellement dans l'obligation de parler à leur base partisane, beaucoup plus militante, qu'ils en viennent à prendre ce genre de décisions-là qui n'ont pas de sens?
Je pense que c'est le propre des pays qui ont... des partis qui ont un très, très, très fort ancrage idéologique.
Ouais, c'est vrai.
Et que à un moment donné, c'est comme si cet ancrage idéologique qui est important, qui est comme une étoile polaire des prises de position, tu sais, tu diriges dans la même direction, c'est notre guide, c'est comme notre cadre intellectuel. Mais à un moment donné, ça peut pas se transformer en psychorigidité politique, tu sais.
Mm-hmm.
Puis quand il y a des moments, puis je vais te faire une comparaison, s'opposer à ça pour le Parti conservateur, tu ne peux pas comparer à Youri Chassin qui s'oppose, par exemple, à la réforme de la loi électorale, tu sais, en ce moment. Donc, il refuse de donner son consentement unanime pour qu'on aille tripoter la carte pour que tout le monde soit content, que la Gaspésie garde son comté, que Paul-Saint-Pierre Plamondon garde son comté à Montréal. Lui, il est indépendant, il ne se représente pas, là. Il peut jouer les empêcheurs de tourner en rond tant qu'il veut, là. Comprends-tu?
Oui, je comprends très bien.
C'est sa dernière bataille. Puis lui, il juge que c'est assez grave d'aller tripoter dans la démocratie, que ça vaut la peine de la mener jusqu'au bout. Est-ce que vraiment, là, sur l'échelle des problèmes de la vie et sur l'échelle des priorités du Parti conservateur, les boissons énergisantes méritent d'être inscrites dans la quête de liberté quand on sait tous les dommages que ça fait pour les ados?
En effet.
Les boissons énergisantes aux adultes, là. Okay?
Non, c'est ça.
Interdire à des ados qui boivent ça à place de boire de l'eau, qui boivent ça comme si c'était du coke, parce que c'est ultra sucré et ça leur donne un buzz.
Oui, oui. Puis, tu sais, ça crée les palpitations cardiaques, ça les énergise. Tu sais, ça va chercher, autrement dit, ce qu'ils veulent. Puis, Maïté Blanchet-Vézina, dans sa conférence également, parlait d'augmenter la bureaucratie. Mais à ce que je cherche, Emmanuel, il n'y aura pas d'augmentation de bureaucratie. Je prends l'exemple des pharmacies Family Prix qui ont décidé de les sortir complètement de leur pharmacie. Ben, il n'y a pas d'augmentation de la bureaucratie. L'interdiction pour les 16 ans et moins, ben, va rentrer dans la même interdiction de l'alcool pour les 18 ans et moins. Il n'y aura pas plus de bureaucratie pour le dépanneur ou l'épicerie qui va en vendre.
Là. Ben non, les gens ils vont demander des cartes. Puis ça fait partie. On s'entend, je ne suis pas convaincue de l'efficacité totale de l'application de cette norme-là le lendemain de l'adoption de la loi. Mais c'est comme toute autre chose, ça s'inscrit dans un mouvement de sensibilisation beaucoup plus large, où il y a 5-7 ans, les gens s'inquiétaient plus ou moins que leurs jeunes se mettent à boire des Red Bull ou des Monster ou appeler ça comme tu veux. Puis de plus en plus, on en parle. De plus en plus, les parents en discutent avec leurs enfants. S'il y a en plus une autre barrière à l'entrée que les ados, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Bien, c'est ça aussi. Là, c'est un ensemble de mesures qui fait que tu es capable de t'attaquer à un problème. Puis je vois, je ne comprends pas en quoi ça sert les intérêts du Parti conservateur de s'opposer à ça.
Tu as tellement raison. On loge vraiment au même endroit. Emmanuel, j'ai lu ta chronique de ce matin, puis en prenant mon café, puis là, hop, je me suis étouffé parce que tu me racontes que Mark Carney, puis là, il vient de faire l'annonce, nous dit qu'avec l'intelligence artificielle, il va créer 250 000 emplois indirects. Mais moi, les gens que je parle, ils me disent toujours « L'intelligence artificielle va nous enlever des jobs. » Y a-tu quelque chose que j'avais pas compris que Mark Carney a saisi, lui?
Mais l'idée, c'est que le pari de cette stratégie-là, hein, qui vient d'être dévoilée, ça s'appelle l'IA pour tous. Il y a énormément d'argent là-dedans. Là, je vais, tu vois, on va faire un fonds de croissance de 500 millions, augmenter la recherche de 350 millions de dollars, augmenter l'accès à l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé pour réduire l'attente, etc., de 200 millions de dollars. Toute l'idée du gouvernement fédéral, c'est que là, en ce moment, premièrement, le Canada est en bas de l'échelle, hein, en termes de confiance, en termes d'utilisation et en termes d'infrastructure. L'enjeu de l'infrastructure, c'est assez grave, là. Parce que tu n'es pas en contrôle de l'auto, tu sais.
Du tout.
Du tout, du tout. Alors, tout ça, c'est de faire un, c'est de permettre au Canada de développer ses propres infrastructures, ses propres champions. Donc, un peu de reprendre le contrôle de la bête qui est l'intelligence artificielle. L'enjeu, cependant, c'est que c'est sûr qu'il y a des emplois qui vont disparaître, mais à l'inverse, il y a des emplois qui vont se développer autour de ça. Je te donne des exemples. Donc, on parle d'emplois qui vont disparaître. On en a beaucoup parlé. C'est beaucoup les emplois des jeunes qui sortent de l'université. Tu n'auras plus nécessairement besoin d'un designer graphique. Tu n'auras plus besoin d'un comptable junior. Tu n'auras plus nécessairement besoin d'un architecte junior pour te dessiner des plans. D'un designer d'intérieur, l'IA est toute capable de faire ça. Tu sais, on s'entend. Mais en même temps, l'inverse, puis c'est l'exemple que moi, écoute, je n'y avais absolument pas pensé. Là, il y a des entreprises qui sont en train de développer des mécanismes pour un agriculteur que son geste qui embauche à contrat un gestionnaire spécialiste en IA qui va évaluer les sols, qui va évaluer toutes les conditions là, de la ferme, puis qui va lui dire la bonne quantité de graines à semer, quand les semer, comment arroser. Quand utiliser, donc pour optimiser toutes les ressources dans la ferme. Comment tu vas avoir des spécialistes qui vont voir comment optimiser tout le workflow sur le plancher d'une usine pour être plus productif. Donc, la promesse, c'est qu'il va y avoir un transfert d'emploi qui va se faire au Canada. Moi, je vais dire, je l'ai lu, puis je suis très fascinée, je passe beaucoup de temps à penser à ça, puis... Mais c'est un peu, je crains que ça ne soit un peu au pays des licornes.
Ouais, hein?
C'est la façon dont on aborde ça, parce que, premièrement, le gouvernement promet qu'il va légiférer, qu'il va réglementer l'intelligence artificielle. Donc, il va premièrement moderniser toutes les lois de protection de la vie privée, protection contre les méfaits en ligne, pour mieux protéger nos enfants, nos données, etc. Il n'a même pas été capable de faire ça. Pour les médias sociaux.
Ben c'est ça, on parle des médias sociaux pour les jeunes, on parle des plateformes numériques, on n'est pas capable de gérer ça. Et là, Mark Carney me promet aujourd'hui que je vais vous gérer l'intelligence artificielle. Je suis comme toi, j'ai de la misère à y croire, là.
Je comprends, mais c'est... En même temps, c'est important que le gouvernement réfléchisse à ça.
Clairement.
Parce que c'est la plus grande révolution technologique, je pense, depuis la révolution industrielle.
Oui.
Et elle pose une menace encore plus grande parce que quand même, la révolution industrielle, à l'époque, posait une menace. T'sais, les gens qui allumaient les lampadaires, ils ont perdu leur job. Mais le bout de cette révolution-là, en bout de ligne, ça a quand même été de sortir une classe sociale complète de la pauvreté la plus abjecte. Faire en sorte graduellement que les gens ne travaillent plus 15 heures par jour, 7 jours par semaine, tu sais. Là, on est dans un truc où le risque, c'est d'augmenter les inégalités dans la société. Puis le risque, c'est qu'on perde le contrôle de la machine ou que comme pays, on soit vulnérable parce qu'on ne contrôle pas la technologie. Parce que cette machine-là, cette intelligence artificielle-là peut devenir, le mot en anglais, c'est « weaponized ». T'sais, ça peut devenir une arme ou de chantage ou de levier contre le Canada. Donc, le fait que le gouvernement réfléchisse à ça, c'est important. Le fait que le gouvernement fasse le constat que les Canadiens ne font pas confiance à l'IA, que les PME ne s'en servent pas assez, tout ça, c'est important. Mais est-ce qu'on va réussir à mettre ça en œuvre, à réglementer adéquatement? Tu sais, regarde ce qui se passe avec les géants de la diffusion en ligne en ce moment. Le gouvernement a essayé de légiférer. Le gouvernement a légiféré. Le CRTC est arrivé avec une solution qui est de leur imposer une forme de taxe là, à eux pour mettre dans un fonds pour la création au Canada. Mais là, ça a deux impacts qu'on n'avait pas vu venir. De un, ça nuit à nos négociations commerciales avec les États-Unis.
Clairement.
Qui veulent protéger la domination de leurs géants numériques. Puis en même temps, le gouvernement dit 15 %, oubliez ça, c'est comme mettre une taxe sur ces produits-là, alors qu'on est dans une crise du coût de la vie.
C'est ça, parce que cette taxe-là va être refilée aux consommateurs, là.
Oui, c'est la raison pour laquelle on a demandé au gouvernement, au CRTC, de faire ses devoirs. Donc, tu sais, sur un truc d'où on partait d'une bonne intention, on se retrouve 5 ans plus tard, un peu de retour à la case départ, parce que dompter ces géants-là, dompter ces bêtes-là, c'est tellement, tellement difficile, tu sais. Alors, un A pour la réflexion, un A pour la volonté de mettre en place une stratégie de mettre des ressources, de vouloir canaliser tout le talent qu'il y a autour de ça au Canada, mais un gros point d'interrogation sur la mise en œuvre.
Oui, exactement, sur comment on va réussir à le faire. On termine le caucus. Emmanuel, tu es avec nous aujourd'hui, tu vas être avec nous demain en parlant de cette réforme de la loi 101. Troisième acte aujourd'hui, on parle de la formation professionnelle aux adultes. On veut justement venir la franciser pour les personnes qui sont anglophones ou allophones et qui n'ont pas là, justement l'exception, donc un membre de leur famille.
Dont les parents n'ont pas étudié en anglais.
En plein ça.
Au Québec. C'est, moi, je suis absolument d'accord avec ça.
Ah, oh, moi aussi.
Les chiffres montrent. Hein, je donne quelques données là, de l'OQLF. 78 % des travailleurs allophones dont le plus haut niveau de scolarité est le français, l'utilisent au travail par la suite, alors que c'est seulement 19 % des allophones qui ont étudié en anglais qui finissent par parler le français. Donc, cette réalité-là, elle est importante.
Vraiment.
Je pense que c'est un trou à combler. Ça va amener, bien sûr, un rééquilibrage, là, parce que ça touche quand même 27 000 personnes par année, là, tu sais, qui vont donc dans la formation professionnelle ou postsecondaire, là, tu sais, qui retournent aux études par la suite. Mais ce que je trouve quand même rigolo en même temps, c'est qu'on est en train de faire un tango autour de l'éléphant dans la pièce.
Ouais, ben là...
C'est quoi l'éléphant dans la pièce?
Ben, l'éléphant dans la pièce au niveau de la loi 101?
Ben oui.
Le tango qu'on fait? Ben, l'éléphant dans la pièce, hey, tu me poses une bonne question. Je te dirais que c'est toute
Ça s'applique
ouais.
Au primaire.
Oui.
Au secondaire.
Mm-hmm.
À la formation professionnelle.
Oui.
Qu'est-ce que le Québec a qui est une anomalie un
mais
peu...
Mais pas au cégep. Ah, ben oui. On n'a jamais voulu l'amener pour les études collégiales.
Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une importante part de la bourgeoisie canadienne-française qui veut quand même que ses enfants réussissent dans la vie puis qu'ils envoient au cégep en anglais pour être sûr qu'ils perfectionnent leur anglais puis qu'après ça, ça ouvre les portes de McGill, les autres grandes universités.
Ben oui, dans ma famille, ma nièce a pris anglais enrichi à la Cavanaradière. Elle est allée étudier à Saint-Laurent puis elle est à Concordia.
Ben, c'est exactement ça.
De ça.
Alors, le piège à ours ou l'espèce de trou dans cette architecture de la socialisation et de l'entrée sur le monde du travail en français, c'est quand même les études collégiales. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a qu'au Québec qu'on a ça, tu sais. En Ontario, tu te rends en 12e année, qui est l'équivalent de secondaire 6, puis après ça, tu t'en vas à l'université. T'sais, cette espèce d'entre-deux, là, il n'est propre qu'au Québec. Là.
Oui.
Surtout en ce qui concerne la formation générale là, préuniversitaire. Là. Alors, mais ça, il n'y a aucun gouvernement qui veut y toucher, sauf le PQ.
Oui, exactement.
La CAQ n'a pas osé aller là. Donc, on donne un petit tour de vis dans un truc qui ne va pas trop froisser personne. Et le gros trou à côté du cégep, on le laisse complètement béant encore.
Exactement. Ben ça sera attaqué par le PQ ou par un autre gouvernement, mais ça ne sera pas les libéraux. Là, si jamais la CAQ réussit le miracle de se faire réélire à première année du mandat, comme ça, on va l'avoir oublié aux prochaines élections.
C'est toujours ça qu'il faut faire, mais on n'a pas voulu aller là avec la CAQ. Fait qu'on est pris à faire des mesures plus marginales parce que la mesure la plus structurante, on n'a pas osé aller jusque-là.
T'as entièrement raison. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Boulevard 102.1. On en jase et on se reparle demain.
Très bien, au
revoir. Salut, un grand merci, Emmanuel Latraverse, qui est avec nous à chaque vendredi. Elle était là avec nous en ce jeudi, absence d'Antonine Iaccarini. Sur la route, Mathias?
Oui, juste vous signaler, Laurentienne, c'est en direction nord, à hauteur de rue de la Faune. Il y a des travaux dans le secteur, ce qui fait en sorte qu'il y a quand même un bon ralentissement qui s'est accumulé. C'est par choc également, Laurentienne, direction sud, pour prendre capital, léger ralentissement dans le secteur. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021 par texto.
Merci beaucoup, Mathias. Après la pause, Renée Amilcar, présidente directrice générale de Mobilité Infra-Québec, ex-directrice générale du réseau de transport d'Ottawa. Elle est arrivée et elle a sauvé le tramway à Ottawa en appliquant plus de 110 mesures différentes. Elle sera avec nous. On veut parler justement de cette implantation du tramway à Québec. On le sait, ça vous stresse. Ça stresse plusieurs commerçants et on veut justement voir les bonnes techniques, les bonnes décisions à prendre pour faire en sorte que ça fonctionne ici à Québec.
Est-ce que le tramway va marcher en hiver?
Je pense que oui.
Ça va être ça.
Ben, on va lui poser la question. Exactement, on va lui poser la question. Donc, on va regarder selon son expérience, justement, qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et après cette entrevue aussi, on vous présentera justement cette partie d'entrevue avec Carl-Emmanuel Picard. Oh. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est disponible sur notre blvd.fm. C'est dans le Point de Max. Une entrevue très poignante d'un entrepreneur qui travaille fort pour que ça fonctionne à Saint-Roch, mais qui se fait mettre énormément de bâtons dans les roues.
On jase!
Émission On jase à Boulevard 102.1, les midi 34 minutes avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. On va, dans quelques instants, parler de tramway. Un dossier qui vous préoccupe et avec raison, beaucoup d'argent investi, beaucoup de travaux qui s'en viennent en ville. Vous rappelez qu'à la météo aujourd'hui, c'est une super belle journée, c'est 29 degrés. Demain, ça va être 20 degrés avec 30 % de possibilité d'averse, 20 degrés pluie pour samedi. Donc, si vous êtes comme moi et vous faites le défi des entreprises, peut-être que vous allez courir à la pluie. Et pour dimanche, on annonce également des averses et 19 degrés. Circulation?
Oui, juste vous rappeler, Laurentienne, c'est à hauteur de rue de la Faune. C'est pare-choc à pare-choc en raison des travaux dans le secteur. Également, Laurentienne, direction sud, léger ralentissement pour prendre capital. Et je vous rappelle que Taniata, dans le secteur de rue Sainte-Hélène, c'est toujours un peu plus difficile en raison des travaux. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
On reçoit en studio Mme Renée Amilcar, qui est PDG pour Mobilité Infra-Québec. On va parler justement de tramway parce que c'est une spécialiste. C'est elle, Mathias, qui a sauvé le tramway d'Ottawa. Mme Amilcar, comment allez-vous?
Je vais très bien vous-même.
Ça va super bien. C'est vrai ça que vous avez sauvé le tramway d'Ottawa?
J'ai contribué à faire en sorte que la fiabilité soit au rendez-vous de manière à ce que les usagers puissent l'utiliser.
Là. Ah, excellent. Donc là, on veut avoir vos trucs. Parce qu'à Québec, le tramway, je pense que vous le savez, ça fait énormément jaser. Ça n'a pas nécessairement l'acceptabilité sociale à l'heure actuelle. Donc, on veut avoir vos trucs pour que ça se passe bien. Ça a-tu de l'allure, ça?
Absolument. D'ores et déjà, je peux vous dire que vous allez tellement être fiers quand le tramway va rouler.
Oui.
Partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive,
okay,
il y a des gens qui ne sont pas contents malheureusement, mais après ça, ils sont tellement fiers. Les détracteurs, vous allez voir, là, ils vont faire des selfies la première journée, ils vont en parler à leurs amis, etc. Donc, clairement, c'est une très bonne nouvelle pour la mobilité.
Qu'est-ce qui n'avait pas bien fonctionné à Ottawa lors de la mise en place? T'sais, qu'est-ce quand vous êtes arrivé, vous, en 2021, la mise en place était faite, bon, il y avait eu des dépassements de coûts, ça n'allait pas bien. T'sais, c'était quoi les enjeux les plus majeurs que vous avez réglés?
Donc, d'entrée de jeu, je dois vous dire que moi, je suis chanceuse parce que dès que je suis arrivée à Ottawa, il y a eu une enquête publique.
Okay.
Sur les déboires du train léger. Et le juge là, qui était en charge de ce dossier-là, M. Horrigan, il a fait 103 recommandations Et les 103 recommandations étaient sous ma responsabilité de les mettre en place. C'est moi qui étais devenue la grande patronne, même si je n'avais pas apporté les problèmes, il fallait que je les règle. Donc, je les ai toutes appliquées. Et en plus, j'ai ouvert deux autres lignes de train en janvier 2025. Et personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que ça a super bien été. Il y a tout le volet planification, comment on planifie. Et surtout aussi, lorsque vient le temps de roder le train en tant que tel, ça, c'est vraiment très, très, très important, cette phase-là, où ce qu'on doit roder le système dans toutes les conditions hivernales,
Oui, parce qu'un tramway, ça marche en hiver, ça, là.
Absolument.
Oui!
Il faut juste avoir le bon véhicule.
OK.
Il faut bien penser, il faut apprendre, bien sûr, de nos erreurs. Et clairement, le tramway de Québec va profiter de tous ces apprentissages-là et de toute cette expérience-là.
Y a-tu quand même un risque? Parce qu'à Ottawa, ça a moins bien marché au début. Est-ce qu'il y a un risque qu'à Québec, au début, on ait beaucoup de difficultés avec le tramway, notamment en hiver ou pas nécessairement?
On va tout faire pour éviter justement qu'il y ait des problèmes parce que je sais pertinemment que la fiabilité doit être au rendez-vous si on veut que le transfert modal se fasse et que les usagers utilisent le tramway. Et nous avons l'expertise, l'expérience. Nous regardons ce qui se passe ailleurs. Nous apportons des ajustements au fur et à mesure pour être sûr que ça va fonctionner jour 1.
Mais est-ce qu'il faut quand même s'attendre à avoir quelques problématiques pour les usagers? Je dis pas des problématiques majeures, mais qu'il y ait quelques problématiques au début lorsque le projet va être mis en œuvre.
Votre question, elle est très pertinente parce que malheureusement, souvent, les gens pensent que c'est une recette magique et jour 1, tout doit fonctionner rondement. Malgré que sur le train d'Ottawa, les deux lignes que je vous ai dit qui ont super bien été, pendant le test les tests, avant qu'on mette en service, on avait un résultat de 99,8. On a quand même eu des tout petits problèmes. L'avantage, c'est que, étant donné qu'on avait bien rodé le système, on a été très rapide pour les régler. Donc, je vous dirais, oui, on va avoir à faire face à quelques petites difficultés. Notre capacité de bien communiquer et surtout notre capacité de régler rapidement ces problèmes-là, c'est la clé. Et moi, là-dedans, j'ai énormément d'expérience, je l'ai vécu.
Quelques questions pour vous d'ordre opérationnel. On déneige ça comment, une rail de tramway? Les auditeurs nous posent toujours cette question-là. Comment on va déneiger ça?
Alors, premièrement, les tracts, ça dépend. S'il y a un petit peu de neige, le fait que le tramway va avancer, c'est comme votre voiture. Hein? Vous n'avez pas besoin de tout enlever toute la neige pour faire passer votre voiture, mais c'est clairement s'il tombe 30 cm de neige, il faut en enlever un petit peu. Et puis, vous savez, on peut voir aussi avec le REM à Montréal, puis c'est la même chose aussi à Ottawa. Bien, quand on annonce du verglas, on va souvent rouler des trains pendant toute la nuit, de manière à éviter justement là, qu'il y ait de l'accumulation du verglas et tout ça.
Mais
et
on passe même une gratte dessus comme dans une rue?
Bien, pour la caténaire, ça va être une grattoir. Mais pour le train en tant que tel, tout dépendamment, c'est quelle sorte de train. Mm-hmm. Donc, le train léger d'Ottawa, il n'était pas assez lourd pour enlever la charge de la neige. Des fois, il fallait déneiger carrément quand on savait qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, on le faisait de façon préventive. Mais par contre, on a aussi des trains au diesel à Ottawa.
Ouais.
Donc ça, la force du train faisait en sorte que la neige pouvait s'enlever.
À Québec, compte tenu que ça va être électrique et batterie, on risque plus d'avoir besoin d'une déneigeuse traditionnelle, c'est ce que je comprends?
Pas nécessairement, mais je veux vous dire qu'on travaille avec des experts. Mm-hmm. On a beaucoup, beaucoup de gens là, qui travaillent avec nous, qui vont nous aider justement à voir comment l'exploitation va se faire. Puis ces questions-là, on va se les poser. Et s'il faut effectivement déneiger pendant la nuit, on va le faire. Mais le fait, encore une fois, là, c'est la même chose pour votre voiture. Là. Même s'il y a une grosse tempête de neige, vous prenez votre voiture pareil, vous avancez, mais vous avancez peut-être un petit peu plus lentement.
Pas que le tramway va avancer plus lentement, mais ça se déneige. Parfait. Autre question qu'on a souvent des auditeurs, c'est est-ce que c'est vrai qu'il va falloir faire tourner le tramway pendant un an vide pour faire nos tests?
Les tests vont être très importants. Il est prématuré de dire combien de temps qu'on va avoir besoin pour roder le système. Et quand on dit roder le système, c'est pas, on n'attend pas que tout soit terminé. Au fur et à mesure, dès qu'on peut commencer à rouler le système, on va le rouler pour commencer à détecter des problèmes qui pourraient survenir. Mais par contre, lorsque tout est prêt, c'est très important d'avoir un minimum de 10 à 21 jours où est-ce qu'on va rouler le système comme s'il était en exploitation, mais sans usager.
Fait qu'à la même fréquence qu'il serait, les mêmes passages, etc.
Pareil,
donc,
c'est
comme
ouvre les portes, on dit station Le Bourgneuf, puis on ferme les portes, etc.
La côte, la fameuse côte entre la Basse-Ville et la Haute-Ville, ça inquiète énormément de nos auditeurs. Vous qui avez l'expérience, vous voyez ça comment?
On a des ingénieurs qualifiés. Il faut faire confiance aux gens techniques et on va trouver la solution.
OK.
On va sur la Lune.
Oui. Est-ce qu'on a la solution à l'heure actuelle ou faut la trouver?
Les gens travaillent très, très fort, je vous dirais. On est encore en phase co-développement et tout ça. On commence et tout ça. Donc, mais ça se fait partout ailleurs. Moi, je peux vous dire que c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit.
OK. À quel endroit qu'il y a une côte comme ça, vous dites que ça se fait partout ailleurs? Parce que c'est une bonne côte à pic là, qu'on a entre la Basse-Ville et l'Haute-Ville aussi.
Vous avez raison, j'ai pas en tête la ville, mais je peux vous dire dans mes réseaux qu'il y a des endroits où il y a des côtes et ça fonctionne.
Mathias, j'ai réussi à poser une question embêtante à la spécialiste du tramway. Ça fait ma journée. Non, c'est vrai. Les dépassements de coûts, on entend énormément parler de dépassements de coûts. Là, ça tombe bien que vous soyez avec nous cette semaine parce que le fédéral a dit « OK, on arrête de niaiser, on met 2,75 milliards, c'est fait, on a notre contribution, notre part de données. » Mais les gens sont très Thomas, si vous me permettez l'expression, en disant « Ben voyons, ça va être plus que 7,6 milliards. Regardez, le REM, c'était à 7 milliards, ça finit à 9,5. Ottawa, c'était à 4,66 milliards, ça finit à tout près de 6 milliards. Comment qu'on va faire pour respecter le budget à Québec? »
Le budget de 7,6 milliards, monsieur, va être respecté.
Oui, c'est une garantie. Je peux vous enregistrer puis vous ramener en onde en 2033.
C'est déjà enregistré, je vais être là à Québec quand vous voulez.
OK, donc vous nous certifiez qu'on va rentrer dans 7,6 milliards.
On a un budget de 7,6 milliards. On va respecter notre budget de 7,6 milliards.
Excellent. Moi je peux pas faire autre que croire votre parole. Mais je vais vous ramener en onde, c'est pas 7,6 milliards.
Ça va me faire plaisir.
Ça va vous faire plaisir. Excellent. Mobilité Infra-Québec, de quelle façon va être impliqué dans le tramway? Parce qu'on entend beaucoup parler que c'est CDPQ Infra qui va gérer justement le projet. Bon, vous avez été créé pendant qu'on était justement dans les balbutiements du tramway Mobilité Infra-Québec pour vous occuper des grands projets d'infrastructure en transport. De quelle façon vous allez vous impliquer dans le projet de tramway?
Alors, CDPQ Infra agit à titre de maître d'œuvre. Nous, on agit à titre de maître d'ouvrage. Donc, tout ce qui est la portée du projet, l'échéancier, le budget. Et on est très impliqué aussi dans la relation avec les parties prenantes. Vous savez, il y a la Ville de Québec, il y a le RTC, il y a le gouvernement, il y a CDPQ Infra. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Donc, nous, on agit un peu comme chef d'orchestre là, pour s'assurer que tout ce beau monde-là se parle. Puis qu'en bout de ligne, là, c'est que quand le tramway va être ouvert aux usagers, bien que ça marche rondement puis que les usagers aient pour leur compte.
Excellent. Les travaux, ça crée énormément de perturbations et énormément d'incertitudes pour nos commerçants. Dans votre expérience d'Ottawa, qu'est-ce qui se passe avant, pendant puis après les travaux?
Ce que la Ville fait présentement ici à Québec, ça ressemble drôlement à ce qu'on a mis en place à Ottawa. Clairement, le syndrome pas dans ma cour, c'est partout. Hein? C'est pas seulement à Ottawa, c'est pas seulement ici. Ça, c'est partout.
Oui, puis ça, je donne une opinion personnelle, mais que ça soit un tramway, que ça soit un immeuble à condo, que ça soit n'importe quelle construction, quand ça se passe dans ta rue ou à côté de chez vous, c'est perturbant. Puis je comprends les gens, là, soit dit en passant. Là.
Donc, la communication est importante. Le savoir en amont, c'est bon. Le savoir pendant aussi, c'est bon. Et je pense que présentement, là, toutes les représentations qui se font avec la Ville par rapport à tout ça, c'est très, très bien. J'ai vu aussi là, qu'il y a des compensations avec les commerçants. Ça, on le fait énormément à Ottawa. Donc, ça aide aussi. Mais il faut surtout penser aux résultats futurs parce que malheureusement, on pense dans les inconvénients d'aujourd'hui. Puis, je suis très, très, très empathique avec les gens qui subissent ça. Mais il faut penser là, que vous allez tellement être fiers de votre tramway. Là. Il y a une très belle ville ici à Québec, là, puis la ville va être encore plus jolie avec le tramway.
Madame Renée Amilcar, PDG de Mobilité Infra-Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience pour le tramway de Québec. On se refait un petit rendez-vous en cours de processus, pourquoi pas?
Ça va me faire plaisir.
Et j'enregistre le 7,6 milliards. Là.
7,6 milliards.
Parce que là, vous avez de la pression. Pas juste de la pression de Jean-François Fortin, animateur d'On en jase, mais de la population en entier de Québec et surtout des auditeurs de Boulevard.
Un plaisir.
Cool. Merci beaucoup, Mme Amilcar. C'est très apprécié que vous ayez pris le temps de passer avec nous.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Ah, toujours plaisant de parler avec des experts c'est avec eux qu'on a leur juste. Bon, évidemment, il peut y avoir des experts qui sont un peu plus joyales. C'est ce qu'on voit du côté de Mme Amilcar, très confiante envers le budget du tramway. Mais écoutez, elle a une carte de visite qui nous permet d'être optimiste. Elle est arrivée en 2021 à Ottawa. C'était le bordel. Elle a mis en place les 101 recommandations. Puis elle a développé une ligne 2, une ligne 3 qui se sont bien passées. Alors, de voir que c'est elle qui est la maître d'œuvre des opérations. C'est CDPQ Infra qui donne la job, mais que c'est eux autres qui vont gérer là, la mise en place de tout ça. Moi, ça me rassure.
Puis, ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est de, un, il va falloir surveiller tout ce qui est à propos de la côte. On n'avait pas encore nécessairement la solution cannée. Mm-hmm. Donc ça, il va falloir suivre ça de près. Est-ce qu'on va avoir une solution? Est-ce que la solution pourrait engendrer des coûts supplémentaires? De deux, elle a affirmé que les coûts allaient être respectés. Puis les coûts vont être respectés, selon Mobilité Infra, même avec l'inflation. On inclut l'inflation dans les 7,6 milliards. Donc, c'est vraiment le budget qu'on dit qu'on ne touche pas. Cette enveloppe-là va être respectée. Donc, ça va falloir surveiller également. Puis, lorsqu'on va mettre le tramway en œuvre en 2033, elle a affirmé que ça allait bien se passer et qu'il n'allait pas avoir de problème majeur.
Exactement.
Une autre chose qu'il va falloir surveiller de près, bien sûr.
99,8% de fiabilité à Ottawa. Donc, on se dit, crime, ça devrait pouvoir fonctionner ici à Québec. Bref, vous allez pouvoir réentendre cette entrevue sur le blvd.fm. Vous êtes plusieurs à réagir. Hugo qui nous dit, hey, merci beaucoup de nous avoir ramené quelqu'un avec une expérience concrète. C'est un discours rassurant. Christian qui reste un peu Thomas, lui, en disant « Bah, j'ai trouvé que ça a des réponses politiques. » Il y a des gens, justement, qui disent « Bah, le tramway, ouais, ça peut faire la job, mais beau avec les fils électriques. »
On ne semble pas convaincu de la beauté de la chose.
C'est un bon point de vue. Mais bref, vous le savez, à Boulevard 101, on laisse vraiment la place à toutes les opinions. Puis je trouvais important pour vous, chers auditeurs, de vous faire entendre l'opinion de cette experte en matière de transport en commun, René Amilcar. Mathias, on va voir notre directeur de programmation, Steven Croiteau, va venir s'installer dans quelques instants pour nous parler de ces très beaux et bons sondages pour Boulevard. Mais sinon, avant, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
En parlant du tramway, la Ville de Québec qui accorde un contrat de 21 millions pour réaliser la montée Mendel. Ce contrat permettra, entre autres, la construction d'une montée pour relier les boulevards de la Chaudière et du versant nord. Je vous rappelle que pour des raisons de coût, la montée ne sera pas accessible aux voitures, mais seulement le tramway, une piste cyclable et un trottoir. Donc, ce sera transport collectif, cycliste et piéton. Les 21 millions sont bien sûr inclus dans l'enveloppe totale du projet de 7,6 milliards qu'on vient de se faire assurer par Mobilité Infra respectera le budget total du tramway, et ce, malgré l'inflation. Le projet de loi qui devrait être déposé demain par Sonia Bélanger, projet de loi à propos de l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans, projet de loi qu'on pensait aller faire l'unanimité alors que le Parti libéral soutenait le gouvernement. Même chose pour le PQ et Québec solidaire. Par contre, le Parti conservateur du Québec qui s'oppose à l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux plus jeunes.
Je pense que ce qui est important de rappeler, là, que c'est un dossier qui est très important. C'est la santé de nos enfants. Étant moi-même mère de jeunes enfants, ce débat-là, je le trouve important. Puis c'est pour ça qu'on on s'oppose à une précipitation dans ce dossier-là. On s'oppose au populisme dans le dossier.
Vous avez été vraiment plusieurs à réagir au 418-971-101 depuis le début de l'émission sur cette prise de position de Maïté Blanchette-Vézina. Vous êtes la totalité contre cette prise de position, mais pour l'interdiction des boissons énergisantes chez les moins de 16 ans. Et en passant, Mme Blanchette-Vézina est complètement dans le champ. Ce n'est pas du populisme. Il y a des études qui existent depuis 2023 de plusieurs sources différentes qui, justement, recommande cette interdiction-là. Donc, c'est pas du populisme de « on est proche de la campagne électorale puis la CAQ essaye de se trouver de quoi pour être populaire ». Pas du tout. Tous les autres partis politiques sont en faveur. Je suis certain que si on ferait un sondage dans la population, c'est 90% au moins de la population qui va être en faveur de cette interdiction-là. Donc, je suis vraiment très, 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 très déçu du Parti conservateur du Québec.
Les hausses immobilières sont encore en vente du côté de la ville de Québec. Un nombre record de 964 ventes a été enregistré en mai. On parle d'une hausse de 5 % sur un an. Les prix médians qui ont encore une fois augmenté. On parle d'une augmentation de 13 % sur un an pour atteindre 575 000 $ pour des plex. Les copropriétés qui progressent de 6 % à 330 000 $ Et des maisons unifamiliales, le prix médian qui gagne encore une fois 4 % pour s'établir à 470 000 $ Ça coûte de plus en plus cher vouloir s'acheter à Québec. Et je termine avec les changements à venir dans le secteur Saint-Roch en raison des travaux tram-cité. C'est ce qui nous a été annoncé hier en raison du réaménagement à venir de la rue de la Couronne. On fermera cette rue-là pour l'accès aux voitures au sud de Charest à partir de l'automne 2026. On devra donc mettre la rue Dorchester deux voies de chaque côté. On va donc mettre différentes interventions en place, dont la plus grosse, la démolition de la passerelle Adrien-Pouliot, qui va mener à une fermeture complète de Laurentienne pour la fin de semaine du 19 juin et une fermeture partielle, une voie de chaque côté pour la fin de semaine du 3 juillet.
Exactement. On écoute Carl-Emmanuel Picard, qui est un entrepreneur dans Saint-Roch. C'est le propriétaire du bar Lanti. Il est en entrevue ce matin dans le Point de Max avec Max Larouche concernant ces travaux-là. Carl-Emmanuel est installé sur la rue Dorchester. La rue Dorchester va devenir à deux sens. Ça fait en sorte qu'il n'y aura plus de stationnement devant son commerce et ça va venir impacter énormément les bennes qui viennent jouer chez eux.
Ceux qui commentent et demandent d'être patients sont plutôt biaisés dans leur jugement. Quand c'est toi qui dois expliquer aux bannes la complexité du secteur, quand c'est toi qui dois t'assurer d'avoir l'argent dans ton compte de l'entreprise, quand c'est toi qui as des flashs et des doutes sur la survie de ton entreprise dans laquelle tu mets ta vie, le bien de ta famille, tu ne vis pas le même stress que celui des spectateurs qui disent d'être patients. Et si tu veux le dire que ça te dérange de vivre ça, j'ai la misère à l'aller. Mais la vérité, là, c'est qu'on est plein d'entreprises dans Saint-Roch qu'à chaque jour, on n'a pas d'argent dans notre compte pour payer les dépenses. Puis il y a des gens qui prennent des décisions puis qui n'ont pas pris en compte que Lanti est là depuis 11 ans, puis qu'avant Lanti, il y avait l'acheté, puis avant l'acheté, il y avait la taverne d'Orchester. Puis là, ils prennent des décisions, puis ils n'ont même pas la bonté de m'appeler.
Mais moi,
pour
c'est
me
ça.
Dire où que les groupes vont stationner, puis ils pensent que moi, je vais manœuvrer là-dedans tout seul. Sérieux, ça, j'ai vu tous les commentaires, mais ce commentaire-là me touche. C'est un projet de vie que je mène avec des gens passionnés pour des gens passionnés, puis là, ça va pas dans le bon sens, Saint-Roch. Il y a plein de commerces qui ferment, ça va continuer à fermer un après l'autre. C'est malheureux, mais c'est ça, la vie.
C'est exactement là, Mathias, où la ville de Québec l'échappe. Je trouve qu'on informe bien présentement la population à l'avance, comme on l'a fait hier avec la conférence de presse pour Saint-Roch. On a tenu en compte les fins de semaine des capitales de Québec et du festival d'été pour planifier les travaux, justement, du retrait de la passerelle Adrien-Pouliot. Mais on ne communique pas avec nos commerçants. La solution sur Grande Allée, elle est venue de commerçants. Elle est venue, entre autres, des propriétaires de l'atelier qui sont venus ici en onde à l'émission On en jase. Et là, bien, on a vraiment un témoignage très poignant de Carl-Emmanuel Picard qui, lui, se retrouve les mains vides en disant « OK, moi, là, pour une période de 2 ans, mes bennes ne pourront pas se stationner devant mon local pour décharger leur matériel. Et quand je demande à la ville, ils vont se stationner où? » On me répond « Trouve une place. » C'est là que la ville de Québec a un très grand manque de sensibilité envers des entrepreneurs qui font rouler la ville de Québec. Ça, pour moi, c'est inacceptable dans le dossier du tramway.
C'est un réel cri du cœur qu'on a eu de la part de Carl-Emmanuel. Un cri du cœur qui, je pense, est venu toucher tous les commerçants du secteur, puis pas juste les commerçants, là, tout le monde. Là, ça vient prendre au cœur en entendant sa voix cassée. On a peut-être manqué un peu de sensibilité du côté de la ville. Là, Bruno Marchand, puis il l'a répété quelques fois, la fameuse phrase de « oui, il va y avoir des commerces qui vont fermer, mais après des travaux, ça va être fantastique, puis d'autres vont ouvrir. » C'est une phrase qui est facile à dire, mais un témoignage comme celui-là nous rappelle que derrière ces commerces-là, c'est pas juste une pancarte, c'est un humain. C'est un être humain qui travaille corps et âme pour faire vivre sa passion, pour faire vivre son commerce, pour payer son loyer à la fin du mois, pour arriver à la fin du mois. C'est une vie qui est derrière ces commerces-là. C'est des années de travail. Donc, c'est pas facile de même de dire « Ah, il y en a qui vont fermer, puis il y en a d'autres qui vont ouvrir. » Pour ces commerçants-là, c'est difficile. Puis nous, ce qu'on peut faire, le message, notre pouvoir, nous, le message qu'on peut envoyer, c'est pour de vrai, même si ça va être difficile dans le secteur du centre-ville, même si ça va être difficile dans Saint-Roch, en Basse-Ville, avec tous les travaux qui s'en viennent, lâchez pas les commerçants locaux. C'est ça notre pouvoir en tant qu'individu. C'est d'aller continuer à encourager ces commerçants-là.
Marianne qui mentionne « Je suis tellement tanné que ce soit les fonctionnaires dans leur bureau qui prennent la décision. Je l'entends, ça vient vraiment me toucher beaucoup. Puis en effet, aller consulter les gens sur le terrain avant de prendre des décisions. Bonne nouvelle dans le cas de Carl-Emmanuel Picard. Il mentionne plus tard dans l'entrevue qu'il va rencontrer rapidement Élanie Lepage, qui est la conseillère municipale de Saint-Sauveur-Saint-Roch, a souhaité qu'on va trouver des solutions rapides comme on a trouvé pour les commerçants sur Grande Allée. Mais ça devrait jamais venir en réparation. Ça devrait venir en prévention. C'est le rôle de la ville et la ville n'assume pas du tout son rôle. On fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, notre directeur de la programmation, Steven Croiteau, vient s'installer. On a d'excellentes nouvelles avec le sondage Numéris d'aujourd'hui. Je vous parle de pièces auto-économiques. Pourquoi? Parce que du 1er au 30 juin, roulez en toute sécurité avec pièces auto-économiques. Trois rabais de 15 % que vous pouvez profiter très rapidement. D'abord, 15 % sur les 10 de frein de première qualité BrakeMax. 15 % de rabais sur les amortisseurs complets McPherson ou Unity de première qualité. Et enfin, maintenant, un petit 15 % de rabais sur l'ensemble de nos produits esthétiques Silvermark parce que c'est bien beau être sécuritaire, mais il faut ta voiture, faut que ton char, comme on dit, soit beau puis shine en été. Pièces d'auto-économique, c'est le meilleur rapport qualité-prix-service de l'industrie. C'est une entreprise d'ici avec 5 centres de distribution pour les professionnels, 8 magasins pour les particuliers, un site web transactionnel et une équipe de plus de 200 employés à votre service. Vous êtes « Ah, j'ai pas le temps de passer la semaine », ben tiens, viens nous voir le samedi de 8h à midi au 1240 Boulevard Charest-Ouest. N'attendez pas, les promotions sont en vigueur en juin seulement. Ouais, 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 on le voit avec la température, l'été est commencé. Pièces d'auto-économique pour rouler en toute sécurité et économiser, visitez pièceséconomique.com. Émission en jase de ce jeudi 4 juin. Il est présentement 13h02. On est très heureux que vous soyez à l'écoute. Vous êtes de plus en plus à l'écoute, justement. On va en parler dans quelques instants avec Steven Croiteau, notre directeur de la programmation. Avant de passer aux manchettes, Mathias, il y a des travaux à Québec. Le monde se promène sur l'heure du dîner. Il y a de la circulation.
Oui, Laurentienne, direction nord, c'est à hauteur de rue de la Faune. Ça crée un ralentissement justement parce qu'il y a des travaux dans le secteur. C'est du pare-choc à pare-choc sur quelques kilomètres en ce moment. Charest, direction est, à hauteur de Henri IV en ce moment. Léger ralentissement également. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Je vous rappelle, une fois rendu au bureau ou en télétravail, blvd.fm, c'est notre web radio, une très belle façon de nous écouter. Vous pouvez aller rechercher également les meilleurs moments de toutes nos émissions à cet endroit-là. BLVD 102.1, c'est notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Téléchargez-les partout où vous allez être. Ça va être facile pour vous de nous écouter. Et si vous êtes en télétravail et comme moi, vous avez un haut-parleur intelligent, vous êtes écouté BLVD 102.1. Paf! On apparaît dans vos oreilles et on est toujours là. Mathias en manchette.
La Ville de Québec accorde un contrat de 21 millions pour réaliser la montée Mendel qui reliera le boulevard de la Chaudière et du versant nord. Je vous rappelle que pour des raisons de coût, la montée ne sera pas accessible aux voitures, mais seulement aux tramways, aux cyclistes et aux piétons. Les 21 millions sont bien sûr inclus dans l'enveloppe totale du projet de 7,6 milliards. Le projet de loi visant à interdire l'achat de boissons énergisantes au moins de 16 ans sera déposé normalement demain par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Tous les partis d'opposition sont d'accord avec ce projet-là, appuient le gouvernement actuellement, sauf un, le Parti conservateur, qui s'y oppose, notamment lors d'un point de presse de ce matin. Et je termine avec Mark Carney, le premier ministre canadien, qui a déposé sa stratégie nationale en intelligence artificielle ce matin. Notamment, on viserait à construire un super ordinateur public de calibre mondial et le développement de semi-conducteurs au pays.
On rejoint immédiatement, il est avec nous en studio, notre directeur de programmation, un homme, je dirais, soulagé aujourd'hui, Steven Croiteau. Steven, ça va bien?
Oui, ça va bien. Ouais. Soulagé, c'est un bon mot, je pense.
Ben oui, parce que tu me disais cette semaine, hors d'onde, les sondages, ça me stresse tout le temps, j'ai une redevance versus les ventes, etc.
Ben c'est notre pain puis notre beurre de vendre la pub à la radio, hein, puis on construit nos objectifs. C'est un drôle de domaine, la radiodiffusion, parce que, tu sais, on a deux sondages par année. Puis après ça, il faut construire notre plan d'affaires, nos objectifs Exactement. De vente, bâtir nos dépenses, nos revenus. Puis tout ça change puis fluctue en plein milieu de l'année. Fait que même si on prévoit notre année fiscale puis on pense qu'on s'en va dans cette direction-là, mais le sondage peut toujours venir un peu charcuter tout ça. Fait que c'est sûr que ça ajoute une charge de pression supplémentaire à toute l'entreprise. Puis une charge de pression aussi, pour vous mettre en contexte, là, on était assis ce matin, les résultats sortaient à 9h, on est dans une salle de conférence ici à Station, on est la gang de direction.
Le War Room!
on l'appelle le War Room, oui. Mais on n'a aucune idée de ce qui va sortir.
En effet.
C'est tellement stressant, c'est comme c'est une boîte de Cracker Jack, là. C'est comme, on dirait que tu roules un dé, puis voici nos chiffres. T'sais, nous, on sait qu'on a travaillé fort. Tous les artisans de Boulevard ont travaillé excessivement fort depuis le mois de mai dernier, parce que là, il faut comprendre que c'est un sondage qui c'est le portrait d'un an, de mai 2025 à mai 2026. S'en est passé des choses à Boulevard pendant ce temps-là. Fait que c'est très difficile pour nous de connaître d'avance les résultats ou d'avoir... Tu sais, on a quelques indicateurs qui nous disent, bon, la station est en croissance, on reçoit plus de textos, on
Exactement.
Reçoit plus de participation au concours.
On voit les statistiques streaming.
Les statistiques de streaming, mais le sondage numériste, on n'y a pas accès, puis il sort du jour au lendemain, ce matin à 9h, puis là, pouf, là, il faut décortiquer, analyser. Il y a une espèce de guerre de genre, c'est quoi les meilleurs chiffres, qu'est-ce qu'on va dire en onde, est-ce que c'est vraiment un bon sondage? Puis tout, évidemment, avec les années, on a appris à maîtriser un peu notre stress, puis tout, puis à être capable d'aller de cruncher les chiffres, tu sais, pour sortir le bon data. Mais tu sais, on sait exactement quoi regarder. Dans le cas de Boulevard, ce qu'on voulait voir, puis ce qu'on a dit, c'est que, tu sais, on a fait un changement vers une formule 100% parlée en septembre dernier. On avait expliqué aux auditeurs qu'à ce moment-là, pour nous, c'était une vision d'avenir pour Boulevard de devenir parler, parce qu'on pense que c'est là l'avenir de la radio locale, entre autres à Québec, mais c'est un peu partout avec l'avènement des plateformes de streaming, les gens qui écoutent de la musique, ils peuvent écouter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, pas de quota.
C'est un phénomène mondial.
Oui, exactement. Puis en plus, l'actualité est foisonnante, fait que les gens veulent savoir, veulent comprendre, veulent être à jour. Tu peux pas le faire ces médias sociaux maintenant, tu sais. Fait que c'est ça. On a fait ce move-là. On avait 50 000 auditeurs. Nous voici quasiment un an plus tard, deux sondages plus tard, à 72 344
Donc,
auditeurs
en
moyenne. Fait que ça, c'est en moyenne, par semaine, pendant un an, le nombre de gens qui nous ont écoutés. Pour nous autres, c'est un énorme succès. C'est 33,3% d'augmentation, dans le fond, des gens qui écoutent Boulevard. Fait que, tu sais, ça peut être quelqu'un au mois de juin l'année passée qui a dit, moi, j'écoute Boulevard. T'sais. C'est pas combien d'heures t'écoutais, quel show t'écoutais. Mm-hmm. C'est le gros chiffre, là, la portée qu'on appelle, c'est le nombre de gens qui ont répondu au sondage qui écoutaient notre station de radio.
Par curiosité, 418-971-102, on en a reçu ce matin. Qui n'écoutait pas l'an passé puis qui écoute? Tiens, je veux entendre, je veux voir ça apparaître sur les textos.
Puis c'est ça. Après ça, je vais vous amener sur le 25-54, le groupe d'âge adulte 25-54. La raison pour laquelle on en parle tout le temps, c'est que les publicitaires, ceux qui achètent de la pub, ceux qui veulent vendre de la pub, veulent s'adresser à un public cible, dans le fond. C'est souvent les jeunes adultes qui sont très actifs, qui ont besoin d'un char, qui ont une hypothèque à renouveler, qui s'achètent des meubles, tu sais, c'est les jeunes consommateurs actifs, c'est eux autres que les publicitaires veulent viser. Fait que c'est pour ça qu'après ça, les stations de radio privées, commerciales, ben nous autres, on veut performer dans le 25-54
ben oui.
Parce que la pub est là, tu sais, fait que c'est là qu'on veut des parts de marché. Puis c'est ça qui est le fun de voir que Boulevard a des progressions dans le 25-54. Gravel, dans le retour, a un premier podium. C'est notre premier show, là, top 3 du...
Ça, c'est hot. Puis pas juste un podium, une deuxième place entre 15h et 18h.
Exactement.
C'est solide. Et là, on va se péter bretelles un peu. La famille Leclerc Communication, c'est les deux premières places. Là. Fait que si on est aux Olympiques, on a médaille d'or et médaille d'argent dans le retour... parce que ça gagne des retours à week-end qui est numéro 1.
Exact. En cas d'horaire du retour, on a le show numéro 1, numéro 2. Mais même nos deux stations ensemble, le Combo Week-end, qui est une station musicale très forte à Québec, Boulevard, qui est notre nouvelle radio parlée, les deux stations ensemble, dans le 2554, on est numéro 1. C'est pour ça qu'on dit qu'on est radiodiffuseur numéro 1. C'est qu'on rejoint nos deux stations ensemble, 175 400 auditeurs à chaque semaine. Mm-hmm. Puis de ce 175 000-là, il y en a 102 000 qui sont exclusifs à nos deux stations.
Wow.
C'est-à-dire qu'ils n'écoutent, qu'ils écoutent soit une, soit l'autre, ou les deux de nos stations. Fait que c'est comme si nos auditeurs choisissent un produit local, Leclerc Communication, une entreprise d'ici, au 815 Le Bourgneuf. Nos patrons, propriétaires sont d'ici. Fait que c'est ça. C'est sûr que nous autres, c'est notre vie, c'est notre quotidien, cette business-là, on y croit. Puis, tu sais, je veux juste saluer les auditeurs, en fait, tu sais, qui nous ont suivis dans cette transition-là. Un paquet de nouvelles personnes qui se sont joints à l'équipe, dont toi, Mathias, oui. dans la dernière année, qui était stagiaire chez nous, qui a fait un paquet de remplacements, qui est sur le terrain. On croit à la radio parlée, on croit à la radio locale. Je pense qu'en plus, les résultats d'aujourd'hui vont juste permettre à nos boss de se dire « Hey, on continue d'investir, on continue de bonifier. » Puis, tu sais, je sais qu'on travaille excessivement fort. Tous les artisans mm-hmm. de radio travaillent excessivement fort puis veulent que leur show performe. T'sais. Des fois, ça arrive des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais reste que je suis tellement fier de ce qu'on a fait, Jeff. Puis tu en fais partie parce que tu travailles sur deux shows sur cette antenne-là.
Ouais, ouais,
cette antenne-là, tu as le show du matin, tu as le show du midi. Puis tu sais, c'est le fun d'être entouré d'artisans qui y croient, qui ont le couteau entre les dents puis qui veulent gagner. Puis j'ai l'impression qu'on a cette gang-là. Je ne te cacherai pas, puis tu le sais plus que moi, qu'on a bûché, on s'est remis en question.
On a travaillé fort!
On a réinventé des shows, on a réinventé des segments. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Non, non, non.
Mais c'est important c'est ça. Je pense que c'est important de souligner l'effort des artisans. Mm-hmm. Vous deux, mais toute l'équipe de Boulevard.
Ah, vraiment?
C'est le fun de voir qu'il y a une cohésion, qu'il n'y a pas de clivage dans nos ouais. équipes. Tout le monde croit au succès de cette station-là avant le succès même de nos propres shows. T'sais. Fait que ça, c'est une grande fierté pour nous autres, puis une grande fierté pour l'entreprise aujourd'hui.
Hey, merci. Vous êtes vraiment plusieurs à texter que vous êtes des nouveaux auditeurs. On vous apprécie énormément. Puis on apprécie les anciens aussi, là, parce qu'il y a Christian qui nous a dit « C'est ça, je ne vaux plus rien. » Non, non,
au
non. On n'est pas comme Belle puis Vidéotron. On vous oublie pas, les anciens. Hey, je m'en voudrais, Steven, de ne pas ouais. terminer ce micro-là en parlant de notre médaillé d'or, notre rock and chill avec Audrey Pinchot. Quelle performance extraordinaire. Ben, quel show exceptionnel là, de 7 à 10 ce samedi, dimanche matin. Un café, le soleil, le rock and chill, je peux pas être marabout.
Une petite idée très banale de genre, hey, on peut jouer du rock, mais peut-être plus cool, plus relax, plus chill.
Ouais.
On va créer ça, hein? Rock and Chill, catalogue spécial, unique. Après ça, on a fini par intégrer des chansons acoustiques, des covers, des ci, des ça. C'est le premier show numéro 1 de l'histoire de Boulevard.
C'est exceptionnel. Je suis tellement content pour Audrey met de l'énergie, qui met tout son vouloir, qui met de l'effort. Depuis quoi? Ça fait 3 ans et demi, le Rock and Chill,
facile.
Si je ne me trompe pas. Parce qu'écoute, moi, je suis dans ma 3e année de radio. Puis j'écoutais le Rock and Chill en tant que simple auditeur de Boulevard. Fait que ça fait plus de 3 ans, c'est sûr.
Puis je veux saluer aussi notre frère, John Pedula, qui est le directeur musical,
oui.
qui monte ses logs-là à toutes les semaines. Tommy aussi, qui met son grain de sel. Fait que un show très unique, très spécial. Mais tu sais, parce qu'on joue encore du rock le soir, la fin mm-hmm. de semaine, on a des bons shows. Mais le Rock and Chill, il y a un petit quelque chose de spécial. Tu sais, les radios parlées comme nous sont en émission parlée. Nous, on a une offre musicale différente, unique, puis clairement, ça marche. Là. C'est,
ouais.
c'est notre premier show numéro 1.
Ben oui.
C'est vraiment,
c'est
vraiment extraordinaire. Encore une fois, merci aux auditeurs qui sont
ouais.
là. Parce qu'on a bien beau faire le meilleur show du monde, le meilleur show de radio, le meilleur show musical. Mm-hmm. Si les auditeurs sont pas là, on vaut ouais. rien, nous autres. Fait que merci
puis,
de nous écouter.
En passant, dans les textos, là, t'sais, le 50 000 à 72 000, là,
ouais.
ben, il paraît, parce que c'est tout du monde qui texte, qui ont commencé cette année en disant « Ah, moi, la radio musicale, j'y croyais pas trop, mais la radio parlée, ça m'intéresse vraiment. Je me suis branché à Boulevard. » Une bonne décision.
Écoute, c'est une bonne ride, puis c'est pas fini, tu sais, on continue, c'est très organique une station de radio, tu sais, ça se vit au quotidien, au jour le jour, puis watchez-nous, tu sais, dans la prochaine
yes.
année, on va continuer de grandir, de peaufiner, d'améliorer, on y croit à la radio locale, on y croit à la radio de Québec, on est des gens de Québec, vous nous croisez mm-hmm. au IGA, vous nous croisez là où on...
Ben, c'est ça, exactement.
Partout où on est en ville, tu sais, fait qu'on, j'ai l'impression qu'on représente notre crowd, on représente notre monde, puis... quelle grande fierté pour nous autres de faire de la radio 100% locale.
Merci beaucoup à tous nos auditeurs d'adopter la grande famille de Lotler Communication, c'est-à-dire Boulevard et Week-end. On est numéro un, la famille, pour une 8e fois, c'est bien ça. Alors, pour une entreprise qui est partie d'à peu près rien, il y a 15 ans, avec deux jeunes entrepreneurs comme Nick et Jeff Lotler, c'est exceptionnel. Merci d'encourager local. On vous aime beaucoup, les auditeurs, puis on est très heureux que vous soyez présents dans aussi grand nombre.
Félicitations aussi à vous deux.
Merci beaucoup. Merci, on fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, on va parler de cette conférence de presse que Mathias a assisté de respect citoyen concernant le tramway. Mathias, ce que je comprends, c'est qu'on continue à être anti-tramway jusqu'au bout.
Pour ceux qui espéraient que l'opposition élève son discours maintenant que le financement du fédéral est réglé, je pense que vous allez être déçus.
Donc, c'est immédiatement à Boulevard 101, l'émission d'En jase.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'En jase de ton jeudi 4 juin. Il est présentement 13h20. À la météo, c'est une super belle journée. C'est 29 degrés. Il y a un peu de nuages qui est en train d'arriver, mais c'est une fabuleuse journée d'été. Profitez-en. Allez encourager les commerçants locaux. Tiens, allez sur une terrasse. Ce soir, faites donc un petit jeudi, les amis, parce que demain, c'est 30 % de possibilité d'averse à 20 degrés. Par la suite, pour samedi et dimanche, il y a une hausse d'appui avec 20 et 19 degrés. Donc, la belle journée, c'est aujourd'hui. Profitez-en rien qu'en masse. Le retour de Gravel qui va suivre avec Denis Véraud et Audrey à 14h, une émission qui a scoré dans les sondages. Deuxième à l'échelle de la région de la capitale nationale, de la ville de Québec, derrière nos consoeurs et nos confrères de week-end, c'est-à-dire les retours animés par Matt Marcotte. Et par la suite, vous aurez Marceau le soir également de 18h à 19h. Bon, Mathias, dans la vie, tu as deux choix. Tu as de rester conforté dans ta prise de position et de continuer ta bataille, peu importe ce qui arrive autour de toi et de ne pas nécessairement démontrer de l'ouverture, ou tu as le choix de dire « Bon, OK, il y a des choses que je trouvais moins bonnes, il y a des choses que j'aimais moins, mais là, je me rends compte qu'on chemine dans cette chose-là, on chemine dans ce projet-là. » Puis que ça va arriver, puis je suis aussi bien de changer mon discours, puis de m'adapter et surtout de regarder, de me concentrer sur le fait que ça fonctionne, ce projet-là. Est-ce que Respect citoyen pour le tramway a choisi la voie de l'ouverture d'esprit et de devenir maintenant ceux qui vont regarder et qui vont s'assurer que le projet est bien?
Mais tu sais, du côté de Respect citoyen, on a Stéphane Lachance, le chef, a dit que le projet allait de l'avant, puis c'était correct. Mais là, tout au long du point de presse, on est revenu avec différentes lignes, puis on va analyser ça ensemble. À commencer par le fameux 2,75 milliards de financement. C'est la part du fédéral qui s'élève à 36 %. Ça fait partie des enveloppes qui ont été annoncées mardi, là, totalisant 10 milliards du Canada vers le Québec. Est-ce que c'est suffisant, ce 2,75 milliards-là? Ben, du côté du chef de l'opposition, j'ai pas envie de dire qu'on remet en doute ce chiffre-là, mais il y a comme une incertitude qui reste. Là. Je vous laisse l'entendre.
Je vois qu'il y a une part fédérale qui est assignée au niveau du projet de tramway. Ça, j'en suis convaincu. Dans 4,4 milliards, il y a de l'argent qui va aller à Québec. Combien? Depuis lundi que la nouvelle a été sortie au niveau des médias, on nous parle de 2,75. Mais je le retrouve nulle part. Les seuls endroits où on en a parlé, c'est des déclarations de ministre. Je veux le voir, Paris.
Oh my God. Donc, on demande de
voir. Ça me prend. On fait une conférence de presse. On a le premier ministre du Canada, la première ministre du Québec qui disent ça va être 2,75 milliards dans le projet de tramway. Mais on ne croit pas ces personnes-là du côté de Respect citoyen.
Bien, visiblement, pas complètement. On dit qu'on. Ce qu'on a dit durant le point de presse, c'est qu'on remettait pas nécessairement en doute leurs paroles, mais on voulait le voir par écrit pour avoir la confirmation. Il a commencé son point de presse mardi, justement, en notant le fait que 2,75 milliards n'étaient pas inscrits dans le communiqué. Ouais. Mais on n'inscrit pas la totalité des choses dans le communiqué.
Exactement. C'était une annonce de 10 milliards. Ça comprenait des infrastructures en transport. Ça comprenait, justement, d'autres types d'infrastructures comme nos cégeps, nos écoles, nos hôpitaux. tôt. Mais là, on ne commence pas dans le communiqué à détailler au fin près. OK, tel montant s'en va là, tel montant s'en va là. C'est un montant global qu'on donne. Et par la suite, c'est le palier de gouvernement provincial qui dit ça va être 2,75 milliards qui va être attitré justement au projet de tramway.
Puis je ne sais pas si tu t'en souviens, je trouve qu'on retombe un peu dans le même type de débat quand on parlait des pénalités reliées à se retirer du projet de tramway.
Raison.
On n'avait pas encore sorti le contrat disponible parce que c'était pas tout qui était ficelé dans le contrat.
Oui.
Mais ça, c'était une chose qui était ficelée, qu'il allait y avoir des pénalités si un palier ou l'autre se retirait. Mm-hmm. Puis du côté des opposants du tramway, on disait « on ne le voit pas sur papier, on ne croit pas les gouvernements qui nous disent ça ». Finalement, le contrat est sorti quelques mois plus tard, puis ça se retrouvait au sein
Exactement.
Du contrat. Donc, étant donné que l'enveloppe va encore falloir avoir des technicalités puis séparer sur différents projets, on va juste avoir des chiffres précis dans des documents une fois que tous les projets vont être ficelés. C'est tout. Mais le 2,75 milliards, quand les deux premiers ministres l'affirment,
ouais.
On est tenté à les croire, là, bien honnêtement.
Bon, il y a les coûts, évidemment, les coûts du tramway. On est pas, on est plusieurs à dire, hey, crime, ça va dépasser 7,6 milliards de dollars parce que au Québec, malheureusement, on est habitué à des projets d'infrastructure qui dépassent toujours les coûts. Tout à l'heure, on avait René Amilcar, PDG de Mobilité Infra-Québec. Elle a géré le tramway à Ottawa, qui nous dit... Je vous assure, ça va être 7,6 milliards. J'imagine que du côté de l'opposition, on n'y croit pas.
Non, on ne croit pas que le projet respectera les coûts. On parle même, comparant les coûts à l'ancienne mouture du projet en 2023, qui était évalué à 12 milliards, mais qui est comme jamais allé de l'avant. La question lui a été posée, est-ce que c'est vraiment une comparaison qui est légitime comparé le projet de 2023 à celui d'aujourd'hui, considérant que c'est pas les mêmes projets? Je vous laisse entendre sa réponse.
Pour moi, vous dites des pommes, des oranges. C'est quand même deux. C'est pas mal deux sortes de pommes. Peut-être pas de la même variété, mais c'est pas mal la même sorte de pommes. Entre 12 milliards puis 7,6, il y a quand même beaucoup d'argent entre les deux.
Oui, il y a beaucoup d'argent.
Je comprends qu'on travaille de façon différemment, comment ils appellent ça, le
co-développement.
Co-développement, ces choses-là, mais c'est quand même pas de la magie non plus, là. Alors, moi, pour moi, je suis sceptique face à ça.
En effet, ces deux projets de tramway, à la différence que celui évalué à 12 milliards, c'était la Ville de Québec qui le prenait en charge et il n'y avait pas de consortium qui avait juste qui s'était associé au projet. Du côté présentement du projet mené par CDPQ Infra, puis ça l'a dit, moi, je pense que ça va finir plus haut que 7,6 milliards de dollars parce que c'est le Québec, puis on n'est pas capable de faire différent. On a juste à regarder le REM. Mais au moins, moi, ce qui me sécurise, qu'on n'aura pas des dépassements de coûts astronomiques, c'est le fait qu'on a des consortiums qui ont signé des contrats avec le gouvernement avec justement des montants qui y sont rattachés puis des obligations à faire dans ces montants-là. Alors, veut pas... Puis il va tellement avoir de yeux mis sur le tramway que je m'attends pas à ce qu'on ait touché le 12 milliards.
Pour le prochain extrait, c'est Stéphane Lachance qui, à certains moments, allait même jusqu'à s'obstiner, avoir des échanges avec les journalistes, les accusant de défendre le projet de tramway.
C'est correct. Je sens votre intérêt à défendre ce projet-là. Vous avez le droit, écoutez.
Vous avez dit que mardi, à l'Assemblée, au point de presse, vous avez eu l'impression d'avoir devant vous une assemblée de Québec forte et fière.
J'ai ce mot.
À une radio.
Ah
bon? Ben, je vais retrouver. Je l'ai entendu là, mes oreilles.
Je suis toujours surpris de voir comment il y a autant de vigueur au niveau de la défense du projet.
Oh. C'est vraiment de la petite politique. Puis dans petite politique, j'entends qu'on a deux discours complètement différents du côté de respect citoyen. On va se présenter sur certaines zones radiophoniques ou même à même notre site web et on va venir parler contre les médias traditionnels. Puis par la suite, on va arriver devant ces médias traditionnels-là et on va dire « j'ai jamais dit ça ». D'un, qu'on s'assume, respect citoyen contre les médias traditionnels. Il peut avoir ses raisons. Moi, je vous le dis, puis tu le sais toi aussi parce que tu as couvert sur le terrain. Les journalistes à l'hôtel de ville sont très rigoureux. Est-ce que certains ont une idéologie plus pro-tramway que d'autres? Oui, mais je vous dirais qu'ils cuisinent autant le maire marchand qu'ils peuvent cuisiner une opposition, surtout en ce qui a trait au coût du projet. Fait que ça sert à rien pour l'opposition d'aller là. L'opposition aurait dû se présenter, dire le projet de tramway, il va se faire. Maintenant, nous, notre objectif, c'est qu'il se fasse dans le 7,6 milliards de dollars. Puis on va watcher à chaque fois, à chaque conseil de ville, qu'on nous passe des prix concernant le tramway. Ben, on va regarder si c'est en adhésion avec le contrat qu'on avait. On est-tu en dépassement de coût? On est rendu à quel total? C'est le genre de conférence de presse que l'opposition aurait dû faire et non pas commencer à chicaner des journalistes. Ça sert à rien. Ça mène à rien. 418-971-1021, vous en pensez quoi? Il y a Éric qui écrit « Oh mon Dieu, on a-tu vraiment une opposition à la ville de Québec? » Il aurait dû appeler ça « Restons citoyens ».
Non, mais commencer à accuser des journalistes de partisanerie, puis c'est pas la première fois que Respect citoyen le fait. On l'a fait quelques fois sur les réseaux sociaux aussi où on accusait des journalistes de mauvaise foi. Ça, c'est un discours qui est facile en politique quand tu te fais challenger, quand t'as pas nécessairement de preuves. Quand t'avances des choses puis que t'as pas de preuves tangibles, forcément, les journalistes vont te relancer et te relancer et te relancer. Pour couvrir l'actualité, c'est pas nécessairement vrai que les journalistes sont plus durs envers Stéphane Lachance que Bruno Marchand. La différence, c'est qu'il y en a un, quand on pose une question ou quand il avance des choses, habituellement, il y en a un qui a plus de faits pour backer ce qu'il avance que l'autre, que son opposant. Et dans ce cas-ci, c'est pas Stéphane Lachance.
En plein ça. Moi, j'aime pas quand les politiciens commencent à comparer d'autres politiciens à quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut toujours élever le débat, puis il faut toujours avoir un débat sain. Un débat où on va argumenter ou des fois on va se coltailler, mais un débat qui va respectueux. Là, ce matin, tu nous as fait entendre ceci de Bruno Marchand.
Ben, y a encore des gens qui croient que la terre est plate, là. Si tu vas pas à la bibliothèque, si tu vas pas dans tes cours à l'école, si tu veux croire à ce que tu veux croire, ben, tu peux croire que la terre est plate. Alors, il y aura des gens pour pendant les 6 prochaines années, puis monsieur, je prends une phrase de monsieur Duclos, le tramway va fonctionner, puis il y a des gens qui vont encore croire qu'il fonctionne pas, puis qu'il est pas là, puis qu'il arrivera pas.
J'aime pas qu'on fasse ce type de comparaison-là avec les platistes, par exemple. Parce que, tu sais, les gens qui s'opposent au projet de tramway, puis on en a plusieurs dans nos auditeurs, c'est des gens qui sont quand même intelligents puis qui argumentent sur une base intelligente de dire « Hey, checkez, vous avez un Carl-Emmanuel Picard qui va faire une dépression. Hey, regardez les travaux, comme il y a des commerçants qui vont fermer. Hey, le tracé est pas assez long. On va-tu être capable de faire de quoi avec cette côte-là? » Même René Amilcar était pas capable de nous le dire tantôt. Donc, j'aime vraiment pas quand on rabaisse le débat là-dessus. Mais là, Bruno Marchand a traité Stéphane Lachance d'enfant de 3 ans aussi. J'avais pas entendu ça.
Ouais, ben, je l'ai pas entendu non plus. C'est mardi que Bruno Marchand aurait justement comparé les propos tenus par le chef de l'opposition à ceux d'un enfant de 3 ans. Stéphane Lachance qui est revenu en réaction.
Écoutez, ça m'a pas du tout affecté. J'ai très bien dormi malgré tout ça. Mais écoutez, ça fait partie du personnage que lorsqu'il se sent attaqué, il réplique avec des insultes. Si M. Marchand, on ne dit pas ce qu'il pense, mais on est des gens qui sont j'allais dire analphabètes, pas analphabètes, mais des non-croyants ou quoi que ce soit. Moi, je n'endosse pas ce qu'il dit, et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté en politique. C'est la raison pour laquelle je défends les citoyens.
Je comprends que le maire est très confiant à l'heure actuelle dans son projet de tramway, avec raison. Le financement a été bouclé. D'ailleurs, vous avez l'entrevue avec le maire au blvd.fm. On a fait une entrevue hier midi avec lui. Je le comprends d'être très confiant aussi dans l'avancement de ses projets parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'opposition à la ville de Québec. C'est d'ailleurs ce que PO nous raconte en disant « Mais voyons, Stéphane Lachance, il a toujours l'air en attente d'un papier ou d'un document pour y avancer à la suite. On dirait qu'il n'est pas en contrôle. » En effet, c'est un rôle, tu sais, de passer de citoyen anti-tramway à chef de l'opposition de la ville de Québec. La marche est énorme. Puis ce que je constate à l'heure actuelle chez Respect citoyen, c'est qu'on ne connaît pas bien la machine, on ne connaît pas bien le fonctionnement de la ville de Québec. Et PO qui ajoute, écoutez, je suis zéro tramway, mais à un moment donné, il faut avancer. Puis en effet, le projet est en marche, surveillons-le à la place de continuer à s'opposer.
Par contre, on disait que Stéphane Lachance n'était pas à son premier rodéo, en quelque sorte, en sous-entendant que les journalistes était biaisé concernant le tramway. Bruno Marchand n'est pas non plus avec ses comparaisons douteuses par moment.
Non, exactement.
Puis même qu'on peut dire ses comparaisons irrespectueuses également. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, le maire Marchand a tendance à faire puis qui est problématique.
Élevons le débat. Élevons le débat des deux côtés. Stéphane Lachance, s'il vous plaît, élevez le débat en arrêtant de vous en prendre impunément aux journalistes des médias traditionnels. Ils font leur travail, ils le font bien, vont faire des erreurs comme n'importe qui, comme vous d'ailleurs. Et Bruno Marchand, maire de Québec, élevez le débat, s'il vous plaît. Parlez-nous des projets, parlez-nous de votre vision, parlez-nous de ce que la ville va être dans 5, 10, 15 ans. Mais arrêtez de vous en prendre à l'opposition, aux aux opposants de vos projets en les traitant de platisme ou d'enfants de 3 ans. Avant de faire une pause circulation, Mathias?
Oui, la ville est en travaux dans certains secteurs et ça rend la circulation difficile, notamment leur ancienne direction nord à hauteur de rue de la Fonte. C'est pare-choc à pare-choc jusqu'à Jean Talon Est. Également, Henri IV en direction sud, c'est dans le secteur de chemin Sainte-Foy qu'il y a un ralentissement en raison des travaux. Également, quand même un bon ralentissement pour l'heure actuelle. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Oui, c'est le numéro pour donner votre opinion également. Après cette courte pause, on parle avec Luc Laliberté parce qu'au Moyen-Orient, c'est vraiment pas chic ce qui se passe. Israël, Liban, est-ce qu'on a des nouvelles fraîches, Mathias?
Oui, Henri IV, direction sud. La raison aussi, c'est que présentement, il y a un incident. Donc, la voie de droite qui est bloquée, hauteur boulevard du versant nord, qui cause justement le ralentissement en ce moment.
Luc Laliberté pour parler géopolitique et politique américaine après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
Steve, t'es tellement lent. S'ils cherchaient quelqu'un pour ralentir le chantier, ils ont pogné le bon! Et toi, ma belle, à la bonne ta banane? Mais là, c'est rien qu'une blague.
Oui, mais là, c'est plus drôle. Sur les chantiers, on entre en zone respect. Vous êtes témoin ou victime de comportements inappropriés? Agissez. Pour des ressources et du soutien, visitez zonerespect.org.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Chez Dino, profitez de 15% de rabais sur les traitements K9 Prevencia 360 contre les puces pour chiens et chats. Protégez vos animaux. Les puces se multiplient rapidement et causent démangeaisons et infections. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca pour découvrir nos spéciaux du mois.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Connaissez-vous le marché Terre et Mer d'alimentation première à Sainte-Foy? Découvrez-y plus de 260 protéines locales de qualité supérieure. Viande et poissons sous vide et surgelés. Nos experts vous attendent sur place pour vous conseiller. Rendez-vous au 2828 chemin des Quatre Bourgeois.
À l'Académie Saint-Louis, on collabore, on s'applique, on fait des erreurs, on persévère, on s'investit, on grandit. On se surpasse en apprenant. On apprend à se surpasser. L'Académie Saint-Louis, la réussite se définit ici.
Bourbeau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, le savoir-faire et les conseils avisés, ça se cultive avec le temps. Et chez nous, la passion pousse depuis 88 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Que vous soyez jardinier amateur ou producteur, vous trouverez tout pour réussir vos projets. Une pépinière bien garnie avec rosiers, plantes grimpantes, arbres fruitiers et plus de 1000 variétés de vivaces. Sur la première avenue à Charlebourg, GérardBourbeau.com.
Pour que ce soit beau.
Le prix d'ami est de retour chez Benet et compagnie. Et tout le monde peut en profiter. Pour un temps limité, obtenez le repas wrap à 10,99 $. Et grâce à l'appli Mon B Éco, les membres bénéficient d'un prix encore plus généreux à seulement 8,99 $. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 29 juin. Des conditions s'appliquent.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Profitez de l'événement cadeau du 50e chez Gréche et Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes et recevez-en une deuxième en cadeau en plus d'une paire de solaires. Oui, deux paires en cadeau. Jusqu'au 16 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails au greche-scarf.com.
Cet été, transformez votre cour avec Moreau PRS. Solarium Sun Space, fenêtres 3 saisons, auvent, pergola, rampe, patio et bien plus. Une bonne nouvelle, la nouvelle succursale de Lévis est maintenant ouverte. MoreauPRS.com.
Ce segment d'émission présenté par le fonds philanthropique Catherine Guillet, créé par moi-même, Jeff Fortin. Joignez-vous à nous pour la soirée du 17 juin. Détail au scène-le-bourneuf.com.
Puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h38 minutes. Mathias, j'ai-tu entendu détail au Seine-Bourneuf.com avant qu'on entre? Qu'est-ce qui va se passer à Seine-Bourneuf le 17 juin?
Je me demande bien. En tout cas, moi, je vais y être.
Ouais, exactement. Il va se passer un spectacle acoustique de Big Muff si vous êtes amateur du rock and chill. Sûrement que nos auditeurs de Boulevard le sont puisque c'est l'émission numéro 1 de sa case horaire la fin de semaine. Une première médaille d'or de l'histoire de Boulevard, c'est l'extraordinaire Audrey Pinchot qui la décroche. Je suis tellement, mais tellement fier d'elle. Elle est exceptionnelle, Audrey. C'est une aussi bonne personne dans la vie que vous pouvez entendre à la radio. Fait que si vous êtes amateur de rock and chill, de petite musique acoustique comme ça, rock, ben c'est le 17 juin à la Seine-le-Bourgneuf que ça se passe avec le show de Big Muff Acoustique. J'ai déjà vu deux fois, une fois à l'Anglicane, une fois au Grand Théâtre de Québec. C'était exceptionnel les deux fois. On vous prépare des surprises. Audrey Pinchot va chanter dans ce show-là. Mais vous allez avoir des gens que vous connaissez également qui vont venir chanter. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour le fonds philanthropique Catherine Guillet, le fonds que j'ai créé il y a de cela. Ça va faire deux ans, le 22 juin, à la mémoire de mon amie Catherine, qui est décédée du cancer du côlon, beaucoup trop jeune, à l'âge de 36 ans. Et avec l'argent récolté, bien, qu'est-ce qu'on fait? On va permettre à une centaine de femmes et d'adolescentes de la basse ville de Québec qui sont défavorisées, qui n'ont pas médecin de famille, d'avoir des soins de santé complets avec les cliniques Ovel. C'est des cliniques privées de soins de la femme créées par Caroline Drolet, une femme extraordinaire qui a été directrice générale du Centre Mère-Enfant au CHUL, puis qui a dit « Ouais, savez-vous quoi? Public, c'est compliqué. M'a allé créer ma patente au privé. Fait même pas deux ans qu'elle a créé ça. Elle est rendue à 5 points de service, dont un au Saguenay.
Ah, c'est bien. Fantastique. Ça se passe bien. Puis pour l'événement, il reste pas beaucoup de billets.
Ah non, il reste à peu près, je vous dirais, une trentaine de billets. Donc faites vite, seinelebourneuf.com. C'est seulement 35$. Le spectacle est à 19h30. Il y a un 5 à 7 avant où vous êtes invité gratuitement sur la passerelle Le Bourneuf. Puis quand on dit gratuit, puis on dit qu'on va vous gâter, là, avec cet événement-là, ben Ashton va être là pour donner de la poutine gratuite pendant le 5 à 7.
On s'en plaint pas.
Pas pire, hein? Donc, lascenelebourneuf.com, si vous voulez nous encourager, le fonds philanthropique Catherine Guillet. Mathias, avant qu'on passe à Luc Laliberté, grosse nouvelle dans le hockey junior, les Remparts de Québec qui ont dit... On la veut, cette Coupe Memorial-là, en 2028 à Québec.
Oui, des Remparts de Québec qui ont déposé leur candidature pour recevoir la Coupe Memorial de 2028 du côté de Québec. On sait, l'organisation avait de l'intérêt, on le savait. Maintenant, c'est officiel. La Ligue canadienne de hockey qui vont annoncer ses deux finalistes le 6 juillet prochain. Présentement, les Olympiques de Gatineau, les Wildcats de Moncton et le Régiment de Terre-Neuve sont aussi dans le coup pour justement obtenir la Coupe Memorial de 2028. La dernière fois qu'elle s'était tenue à Québec, c'est en 2015.
Avec les changements dans le junior, j'ai bien l'impression que plusieurs équipes vont tenter d'avoir la Coupe Memorial pour garder leurs joueurs de 19 ans qui ont tendance à aller vers les universités américaines. Luc Laliberté est avec nous. On va parler de géopolitique américaine. Luc, comment vas-tu?
Ça va particulièrement bien. Et avant de me tourner vers les États-Unis, un coup de chapeau pour l'initiative du Fonds philanthropique.
Ah, merci.
C'est particulièrement important. Vous avez droit à tout mon respect.
Ah, c'est très gentil, Luc. J'apprécie énormément. Luc, on parle d'un cessez-le-feu peut-être entre Israël et le Liban, mais Israël a continué à bombarder aujourd'hui le Liban. Pendant ce temps-là, l'Iran et les États-Unis ont recommencé aussi à s'attaquer. Puis c'est le Koweït qui a mangé des drones par la tête. Ça recommence à être très explosif au Moyen-Orient.
Et on a l'impression, et c'est triste de le formuler comme ça, que c'est un peu le jour de la marmotte. Quand on regarde, on venait tout juste d'annoncer le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et le Liban, bien sûr, en raison de la présence du Hezbollah. Et uniquement dans les termes du cessez-le-feu, on se doutait à quel point ça allait être précaire, que ça allait être fragile. Parce que Israël se garde dans ses négociations le droit d'être le seul juge et arbitre, finalement, du droit d'effectuer des frappes ou pas. Mm-hmm. Il n'y a pas de validation au plan international. C'est Israël n'aime pas ce qu'on voit, on se remet à bombarder. Et dans une période où Benjamin Netanyahou est soumis à des pressions à l'interne, en politique intérieure, qui sont très grandes, on va être très intolérant face à tout ce qui peut ressembler à une menace du Hezbollah. Et la marge de manœuvre de Netanyahou, elle est presque totalement absente. De l'autre côté, on exige énormément du Liban qui, lui, doit contrôler le Hezbollah et s'assurer de l'avoir désarmé, ce qu'on affirmait du côté du Liban. Et le Hezbollah, lui, renaît de ses cendres presque continuellement, ne respecte pas non plus l'entente. Et si vous considérez, parfois c'est un peu complexe, si vous considérez que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, c'est une condition de l'Iran pour négocier avec les États-Unis et avec Israël par la même occasion, chaque fois que ça branle ou chaque fois que ça vacille du côté d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, ça complique d'autant la tâche, donc, des négociateurs autour de la table pour l'Iran et les États-Unis. Et c'est là où je dis, on a l'impression du jour de la marmotte. Ce n'est pas la première fois que le Liban et Israël disent en être venus à une entente dans les dernières années. Ce n'est pas la première fois que ça craque et l'encre n'est même pas séchée sur l'entente. Et bien entendu, combien de fois Donald Trump nous a dit que ce conflit-là avec l'Iran était terminé, allait se terminer ou que les choses allaient mieux autour de la table de négociation. Et pour Donald Trump aussi, on le sent bien, en politique intérieure, et maintenant ça s'est invité dans les débats à la Chambre des représentants et au Sénat, non seulement la population américaine est fatiguée de l'administration Trump, elle n'aime pas ce conflit, elle est en colère contre les retombées du conflit, et là ce qu'on voit, c'est que les élus républicains à la Chambre, bien, ils osent maintenant manifester plus fort qu'avant contre Donald Trump sur le sujet du conflit iranien.
Oui, exactement, parce que 4 élus républicains au Congrès qui ont signé justement cette lettre symbolique signifiant à Donald Trump qu'on devrait mettre fin à la guerre en Iran. Je dis lettre symbolique parce que Donald Trump peut décider de la poursuivre s'il veut, mais c'est quand même un autre affront pour le président républicain.
Voilà, ce que ça montre, en fait, c'est qu'autant il est fort pour soutenir des candidats dans les primaires. On est à choisir dans tous les États américains là, dans les derniers mois, ceux qui vont se présenter en novembre 2026 au Parti républicain. Donc, on a constaté, sauf à de rares exceptions, qu'on a encore besoin de l'appui de Donald Trump. Mais ce qu'on note pas souvent, c'est qu'à la Chambre et au Sénat, il y a un certain nombre d'élus dont le siège n'est pas en jeu ou qui ne reviendront pas en politique. Et ceux-là ont une marge de manœuvre supplémentaire pour s'exprimer, et Donald Trump paie le prix de cette impopularité. C'est important quand tu dis qu'essentiellement c'est symbolique, c'est qu'en vertu de la loi de 1973, qu'on appelle le War Powers Act, ça prend un vote de la Chambre et du Sénat pour dire au président « on met fin à cette guerre-là ». Mais même si le Sénat, et ce n'est pas fait, ce n'est que la Chambre qui a voté, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, même si le Sénat votait, Donald Trump n'est pas au bout de ses recours. Il pourrait encore utiliser son droit de veto à lui. Et là, je vais essayer de vous éviter trop de technicalités, mais là, il faudrait revenir à la Chambre et au Sénat, et c'est un vote aux deux tiers des deux chambres que ça prend. Et ça, ne retenez pas votre souffle, ça n'arrivera pas.
Non.
Donc, le vote, il est symbolique. Ce que ça montre, c'est que le mécontentement de la population, il est remonté maintenant jusqu'aux élus, à la fois à la Chambre et au Sénat, sans nécessairement qu'on puisse freiner Donald Trump pour le conflit iranien.
Ça me fait penser à cette guerre tarifaire également, Luc, où là, on a tenté d'inventer une histoire d'enfant qui travaille pour donner des nouveaux tarifs cette semaine. Mais tu sais, je crois qu'avec l'administration Trump, ce qu'il faut faire, c'est user de patience. On le voit présentement, les démocrates font pas trop de bruit, sont patients, attendent, et là, le vent commence à virer de côté. Puis je pense que pour le Canada, dans ses négociations, ça va être la même chose. Est-ce que je me trompe?
Je savais pas que tu terminerais avec le Canada, mais c'est exactement là où je voulais reprendre pour ta question, pour ta relance. Mark Carney, et c'est le jeu quand on est premier ministre et quand on a été élu en se présentant comme celui qui peut résister à Donald Trump ou mieux nous protéger, Mark Carney essuie des critiques, mais sur le fond, libéral ou conservateur, il a un jeu d'équilibriste, Mark Carney, qui est particulièrement impressionnant à jouer. On verra s'il le joue bien ou même s'il le joue bien, si ça va rapporter, mais effectivement, il est patient. Et il négocie là où il a une marge de négociation et il flatte le président américain là où il peut le flatter.
Ouais.
Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours, quand il a dit finalement bien s'entendre avec le Canada, c'est « Make America Great Again ». Pour la majorité des gens, c'était « Est-ce que c'est pas un peu de la foutaise? » Ça dépend avec qui vous négociez. Donald Trump a apprécié cette phrase-là. Mm-hmm. Elle a été notée dans l'entourage de la Maison-Blanche. Donc, on joue ce jeu un peu charme, où on joue ce que souhaite entendre le président, En même temps que sur certains enjeux où le Canada est le plus fort dans les négociations, on l'oublie, mais il y a des domaines où les États-Unis dépendent plus de nous. Mark Carney, surtout quand il parle au milieu des affaires, a des oreilles grandes ouvertes devant lui. Mais oui, il y a une question de patience. Il y a une question de patience avec Donald Trump lui-même. Et une question de patience si jamais Donald Trump et les Républicains devaient être battus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des élections de mi-mandat. C'est qu'on pourrait déjà freiner beaucoup d'initiatives de Donald Trump si les démocrates remportent la Chambre, ou mieux, si on pense aux démocrates, s'ils remportent la Chambre ou le Sénat. Donald Trump serait à toute fin pratique paralysé comme président dans bien des domaines. Et ensuite, jouant la patience, ben, les partenaires américains qui sont déçus de la présidence américaine attendraient ou espéraient une victoire démocrate en 2028. C'est beaucoup de si, mais en même temps, ce que ça nous rappelle, c'est au prix qu'il est, on va faire ça, c'est de prendre notre gaz égal. Donc, c'est de ne pas devancer les coups, c'est de rester vigilant, c'est d'intervenir là où on le peut. Mais malheureusement, parfois on est pressé, on aimerait que ça s'améliore plus rapidement. Mais oui, la notion de patience, tu fais bien de l'exploiter, je pense.
Parlant de patience, pendant un endroit, et je termine avec ça, là, quand un endroit on ne peut plus être patient, c'est à Cuba, parce que là, la situation est grave, on manque d'électricité, on manque de pétrole, les grandes entreprises se retirent comme Mastercard, Visa. Comment tu vois ça dans la prochaine semaine? Est-ce qu'il va y avoir des gens à l'international qui vont se lever pour justement qu'on fournisse là, du pétrole et des denrées à cette population-là? C'est quand même 11 millions de personnes.
C'est un gros échiquier. Hein. Quand on parle de Cuba pour les États-Unis ou pour les gros joueurs sur la planète, Cuba, malheureusement, n'est qu'un pion sur un vaste échiquier. Est-ce qu'on accepte de sacrifier ce pion ou si encore on décide de mettre notre pied à terre, d'intervenir, mais de devenir un joueur entre les puissants? Mm-hmm. Il est clair que la stratégie de Donald Trump avec Cuba, c'était d'attendre que Cuba tombe, grosso modo, de cueillir le fruit mûr. Les Américains nous ont dit la semaine dernière, nous serions prêts pour une invasion. Tout ce que ça nous prend pour être opérationnel, pour entrer à Cuba, on l'a. Ça me semble être un argument ou une menace de plus qu'on brandissait en attendant que le régime tombe. Est-ce qu'on est encore prêt du côté américain à attendre? Si on ne parle que de stratégie, et c'est horrible parce qu'on met de côté le facteur humain, la crise humanitaire, et donc, les Américains ont le gros bout du bâton. Est-ce qu'ils sont prêts à autoriser une ouverture pour de l'aide humanitaire? Je pense que c'est là où il faut regarder en premier. C'est la grande question. Mais malheureusement pour Cuba, c'était un peu le cas pour le Venezuela, ils sont dans la mire de la nouvelle politique de sécurité nationale de l'administration
Trump. La Monroe.
Voilà, la Monroe Doctrine.
Yes. Luc Laliberté, toujours un plaisir de te parler. En passant, Boulevard 102, on est passé en une année de 54 000 auditeurs à 72 000. C'est un bon fulgurant de 33 % et c'est grâce notamment à des collaborateurs comme toi, Luc. Alors, merci infiniment.
Ah, puis chapeau, c'est un plaisir de me joindre à vous régulièrement. Puis la meilleure des chances pour ce qui s'en vient.
Merci beaucoup. Salut, Luc. Bon vélo. Ça va faire du vélo. Bon vélo, il fait beau.
Yes, sir.
Let's go. Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Il est également producteur des capsules La Liberté en clair. Suivez-le sur les différentes plateformes de médias sociaux. Je veux terminer avec deux choses, Mathias. Premièrement, je remets le prix citron de la journée à Maïté Blanchette Vézina, même si elle parle de pamplemousse.
Je vais vous donner un exemple. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui interagissent, qui ont une interaction avec le pamplemousse. Ça peut causer des décès, là. Ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse?
Vous avez été unanime au 418-971-1021 pour ce prix citron en cours d'émission. Pourquoi on attribue le prix citron à Maïté Blanchette-Vézina? Ben c'est fort simple. C'est tout simplement parce qu'elle est la seule à s'objecter au projet de loi qui interdirait la vente de boissons énergisantes chez nos jeunes de moins de 16 ans. C'est prouvé par différentes études scientifiques que le taux de caféine qui se retrouve dans ces boissons énergisantes-là est dangereux pour la santé de nos enfants. De plus, les gens qui prennent un médicament pour le TDAH peuvent en mourir, comme malheureusement le jeune Zachary Miron.
Pis ça, c'était sa comparaison entre une interdiction au pamplemousse puis une interdiction pour les moins de 16 ans aux boissons énergisantes. Je trouve ça un peu insensible pour la famille du jeune Zachary Miron, honnêtement. Les dents devaient grincer un peu attendant cette comparaison, là, disons-le, douteuse.
Vous cherchez quoi faire ce soir? Stade Canac, les Capitals reçoivent les Jackals du New Jersey, les Capitals de Québec. C'est 17 victoires et 6 revers depuis le début de la saison. Hier, ils ont partagé un programme double avec les Jackals. C'est jamais cher. Bière à 4 piastres, poutine à 3 $. Allez-y en grand nombre. Sinon, amateur de sport, ce soir, Mathias, c'est le deuxième match entre les Golden Knights et les Hurricanes de la Caroline. Deuxième match de la finale de la Coupe Stanley. Je m'attends à ce que les Hurricanes soient en mesure d'égaler la série 1-1. Je pense qu'on va se ressaisir au niveau défensif comme on l'avait fait contre le Canadien de Montréal lors du deuxième match. Tu y vas avec quoi, toi, Mathias?
Je pense que les Hurricanes aussi vont gagner ce soir dans un match beaucoup plus serré. Là, je vois un 3-2 ce soir ou encore un 2.
Du côté des Golden Knights de Vegas, on a les deux meilleurs marqueurs des séries jusqu'à présent avec Mitch Marner, 22 points, et Jack Eichel, 19 points. Taylor Hall est le meilleur marqueur des Hurricanes, le vétéran Taylor Hall qui n'a jamais mis la main sur une Coupe Stanley. 34 ans, il a 16 points et 7 buts depuis le début des séries. Son trio est complètement en feu. C'est Brett Harden qui domine la colonne des marqueurs du côté de la Ligue nationale en série avec 11. Logan Stankoven est le meneur avec 9 chez les Hurricanes.
Harden qui avait 12 buts en saison régulière.
Ouais.
Il y en a 11 en série en ce moment.
On appelle ça dans le jargon un joueur clutch.
Ah, c'est impressionnant, c'est quand même exceptionnel.
Vraiment. Le retour de Gravel suit à l'instant même. C'est le deuxième retour le plus populaire des ondes radio à Québec après les retours à Week-end Communication. Les deux vont se mettre ensemble à 15h pour fêter leur podium 1 et 2. Manquez pas ça. Champagne au menu, apparemment. Puis vous allez pouvoir entendre l'extraordinaire Audrey Pinchot dans les retours de Gravel. Pourquoi je dis l'extraordinaire? Parce qu'elle est numéro 1 avec son Rock and Chill la fin de semaine. Première médaille d'or à vie chez Boulevard. C'est Audrey Pinchot qui la décroche et c'est donc bien mérité. Nous, on se reparle demain à midi. Salut, Mathias.
Yes, sir. Salut. Bonne journée, tout le monde.